Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
18h03, bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team du Gars, à parler pendant 2 heures, à se régaler, à rigoler et surtout avoir beaucoup de recul par rapport au football. C'est pour ça que Jean-Louis est avec nous. Bonsoir mon Jean-Louis, qui va tempérer tout ça.
Mais bonsoir, oui, bah, à tous.
Bah, ça va mon Jean-Louis?
Bah, ça va, et toi?
Passez mon week-end.
Ah, bah, j'ai écouté une super émission là, la boîte à souvenirs avec Christophe Dugarry hier.
Ouais, oh c'était au Chialot, hein.
Ah, c'était au Chialot, oui. Ouais, on faisait la boîte à souvenirs de Thiago Silva, t'as raison.
Ah ouais, exactement.
Allez, ah ouais, allez écouter ça en podcast. Franchement, c'est un super moment de radio avec Jean-Christophe Drouet, le travail de Pierre Amiche.
Rappelons que c'est une boîte, c'est une boîte sérieuse.
Boîte
c'est
pas à souvenirs, voilà.
Oui, oui. Pas une ah, voilà, boîte. Ouais. Oui. Ouais. Comme ça m'arrive d'aller souvent en boîte, pas toujours habillé, mais pas,
oui,
pas, là on est habillé. Là.
Mais tu laissais beaucoup de souvenirs.
Ouais. Pas tant que ça. Sincèrement, pas tant que ça. Éric Dimeco est avec nous également. Bonsoir Éric.
Comment ça va Dugas? Salut Jean-Louis.
Salut à tous.
Ça va Éric? Passe un bon week-end.
Ça va, écoute. Alors tu sais quoi,
je suis allé
manger hier à l'hôtel Bord chez notre,
ah,
ami,
oui,
David, chez notre ami David Cosette.
Oui.
Et donc je vous conseille, bonne petite table. C'est un hôtel, mais c'est un petit restaurant au bord de la mer. C'est Patty qui débute dans le métier.
Alors David Cosette, c'est le commentateur historique de la proie,
oui,
du basket,
NBA, Canal et tout.
Voilà, sur RMC Sport aussi, voilà, depuis plusieurs années.
C'est reconverti.
Qui ressemble un peu à Laurent Romeshko un peu.
Ah bon?
Pas du tout.
Ah bon? Il va mal le prendre.
N'importe quoi.
Ouais, bah, non, oui, non,
c'est cool. On l'embrasse parce qu'il se lance dans une nouvelle aventure. C'est quand même.
Ça fait un petit moment déjà, non?
Oui,
mais. Ouais, mais il a pris le Covid à plein tronche, je sais pas, cher.
Ah, oui,
donc il faut aider les commerçants.
Il y a un très beau reportage d'ailleurs qui est sorti sur son installation.
Exactement.
Sur
M6, ouais. Et exactement. C'est à hier, c'est ça?
C'est à hier, ouais, voilà. Au bord de la plage. Ouais.
Magnifique. Bah, allez-y, voilà.
Excellente idée.
Alors, je pensais que tu nous inviterais tous, Eric, à manger là-bas un
mais
jour.
Il n'y a pas de souci, mais descendez les poulets.
Ben, on descend, on arrive.
Ouais,
ça pour t'inquiète descendre, pas, s'il y a à manger, on arrive.
Il y a une super. Il y a le Osiris revient dans le game le 26.
Quel rapport?
Eh bien, si vous voulez descendre, je vous invite aussi à la soirée, apéro. Ah,
non, mais moi, je veux bien venir manger, mais pas regarder Osiris, t'es gentil.
T'as rien d'autre à vendre, Eric,
mais toi, tu veux faire que les mariages, jamais les enterrements. Donc, ouais, c'est ça? Eh bien, bravo.
C'est ça. Tout le monde est invité, Eric, même Dugas?
Oui. Bien sûr, mais comment? Attends, tu rigoles. Le problème, c'est qu'il risque de croiser quelques ex là-bas, donc ils ne voient pas trop qui viennent.
Non.
Ah non, ils ont plus d'âge, ils doivent être très âgés maintenant.
Eh ben oui, mais c'est une soirée âgée.
Alors on y va donc pour Team Dugas. À 19h, on va revenir en détail sur la carrière de Karim Benzema, son éclosion à Lyon, son adaptation compliquée au Real, avant ensuite de s'y imposer. Quelle trace laissera-t-il dans l'histoire du foot français? On se posera la question avec Fred Hermel qui sera avec nous. Fred qui a parlé d'erreur de casting ce week-end concernant Antoine Griezmann. On y reviendra aussi avec lui tout à l'heure. Griezmann au Barça, c'est une erreur de casting selon lui.
Et quand Fredo dit quelque chose, ça a une résonance mondiale.
Évidemment.
Donc ça fait beaucoup, beaucoup de bruit du côté du Barça.
Évidemment, oui, c'est sûr. À
18h30. Il se pose la question d'ailleurs de garder ou pas Griezmann suite à cette phrase.
Ça ne m'étonnerait pas. À 18h30, Christophe Galtier veut un jour entraîner l'OM. Est-ce que ce serait le meilleur pour ce poste? 32-16 là aussi pour débattre. Mais on va débuter par le PSG. Avec toute la cellule PSG reconstituée dans Team Dugas. Mohamed Bouafsi, bonsoir Mohamed.
Salut Dugas, salut Jean-Louis,
bonsoir,
salut Eric.
Mohamed.
Et Loïc Tanzi, puisqu'on va parler des jeunes et que c'est plus que jamais son rayon.
Quelle chance on a. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de chance, mon Jean-Louis? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, je pense que c'est pour relever le niveau de l'émission, je vois que ça.
Là oui, bien sûr.
Bah oui, attends.
C'est pour mettre des infos.
Il aurait peut-être fallu penser avant, par contre, parce que c'est bientôt fini. Donc,
c'est con d'y passer le dernier mois. Hein.
Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup, là, les deux en même temps. Là. Bon, enfin, on va voir ce qu'ils ont à dire.
Le meilleur, toujours pour la fin, Dugas.
Ouais,
c'est bien.
Ça va te coûter un bras, Dugas, cette histoire.
Alors, Mohamed. On va déjà aborder le mercato du PSG en général, puisque donc Leonardo, dans une interview au JDD hier, a donc acté les non-renouvellements de contrats, même si on le savait, hein, de Thiago Silva, de Cavani également, annoncé des départs, Meunier, Kurzawa. Il a confirmé aussi que Neymar et Mbappé seraient là l'an prochain. On va se poser la question, joue-t-il sa crédibilité et son bilan au PSG cet été? 32-16 pour en débattre, parce que là, le chantier est énorme. Hein,
il y a un chantier très important du gars Eric, c'est de recréer un nouveau cycle au PSG. C'est la fin d'un deuxième cycle. Il y a eu le premier cycle avec les arrivées de Thiago Silva, d'Ibrahimovic. Ensuite, le cycle avec l'arrivée de Neymar et de Mbappé. Et là, il y a le cycle du changement avec les départs de Cavani, de Thiago Silva, de joueurs qui ont été importants dans l'histoire parisienne. Il y aura aussi des départs de joueurs, on va dire, de compléments. Lévin Kurzawa, on peut penser à Choupo-Moting, on peut aussi penser à Thomas Meunier. Mais il y a la volonté de recruter un à deux nouveaux joueurs cadres, notamment en défense, clairement, avec l'information RMC Sport du week-end, le départ de Tanguy Kouassi. Il y a une volonté de recruter un défenseur central, il y a une volonté de recruter deux joueurs sur les côtés, un attaquant aussi, un joueur qui pourrait être derrière Icardi, un remplaçant, on va dire un remplaçant de luxe. Et aussi, on est en quête d'opportunités, un voire deux milieux de terrain, donc ça fait beaucoup de joueurs. Mais Leonardo le dit dans cette interview à nos confrères du JDD, il n'y a pas eu d'offre pour l'instant proposée par le PSG à des joueurs, des réflexions menées notamment avec les entourages, ce que tous les clubs font, et on verra surtout les opportunités et on ne remplira pas toutes les cases cet été.
La piste Lucas Hernandez, donc ça peut être une bonne opportunité.
C'est clairement dans les opportunités, mais pas au montant voulu par le Bayern Munich. On confirme les informations de la Cadena SER en Espagne, qui explique que Lucas Hernandez, le PSG en fait sa priorité. Oui, c'est l'une des priorités du PSG. Le joueur ne s'est pas adapté du Gaëric au Bayern Munich, ne s'est pas adapté à la vie allemande. Il s'est blessé, il a eu les ligaments croisés, sauf que le Bayern n'est pas contre son départ, mais à 80 millions d'euros. Et à ce montant-là, pour le PSG, c'est pas possible avec la crise du Covid et surtout avec la blessure du joueur. Donc il y a des réflexions comme ça avec des joueurs qui sont menés et Lucas Hernandez en fait partie.
Dugas, ce sera un bon choix, Hernandez, avant de débattre de Leonardo.
Ouais. Excellent, bon, je crois qu'on est tous unanimes sur le plateau pour dire que Hernandez est un excellent joueur qui amène sa grinta, qui amène son envie, sa détermination. Voilà, on le trouve assez impressionnant. Après, je suis surpris que le Bayern s'en sépare parce que même si Boateng a retrouvé la santé et la qualité, je suis pas persuadé que ça dure à vitam aeternam. C'est pas si facile que ça. Ils ont la chance d'avoir un joueur de ce niveau-là, même si c'est vrai qu'ils l'ont peut-être payé un peu cher, mais de ce niveau-là, qui est jeune, ça me surprend.
Il peut couvrir deux postes.
Ouais, il a eu une grosse blessure. Oui, alors effectivement.
Alors, son entraîneur Flick en a parlé aujourd'hui, en reconnaissant qu'il traversait une passe difficile. Il dit que beaucoup de choses se sont faites pendant sa blessure, un travail tactique avec la défense à 4 du moment, donc Pavard, Davis, les deux latéraux, Alaba et Boateng en défense centrale. Il dit que ça a très bien fonctionné, donc forcément, c'est plus dur pour lui aujourd'hui. En plus, il manque de rythme, Hernandez.
Oui, après, ça ferait, si tu rajoutes Davis, tu mets Alaba, plus Hernandez, ça fait trois gauchers. C'est quand même assez rare dans une défense sur quatre joueurs.
Alors d'ailleurs, c'est justement là où j'allais t'emmener au PSG aussi. Parce que donc, si tu prends Hernandez, ça veut dire que tes quatre défenseurs centraux, c'est Kimpembe, Marquinhos, Diallo et Hernandez. T'as trois gauchers là-dedans.
C'est rare. C'est très, très rare. Après, ça serait une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est certain. C'est un excellent joueur. Il va t'amener cette grinta. Après, on va reparler de Leonardo, donc je ne vais pas trop développer, mais on fait comme
ouais,
ça.
Ouais, allez.
Non, mais très bien. Excellent choix. Excellent choix.
Eric, pareil, sur Hernandez.
Ben, moi, j'adore ce joueur. Donc, je pense qu'il amène plusieurs qualités, et notamment cette grinta dont on dit qu'elle manque au PSG. Donc, pourquoi pas? Maintenant, c'est un gros investissement. Et ça veut peut-être dire que tu dois te séparer de Diallo, parce que c'est vrai, trois défenseurs centraux.
Diallo ou Kerrer?
Ou Kerrer, après écoute, en tout cas sur le marché, moi je suis étonné aussi comme Dugas, on en a parlé
tout à
l'heure.
À droite,
comme Dugas, je suis étonné que le Bayern lâche un joueur comme ça, qui était prédestiné à revenir dans l'axe assez rapidement quand les tauliers là commencent un peu à baisser de pied. Bon, après il y a le petit Davis qui vient de débouler là au milieu, qui n'était pas prévu, ça c'est vrai que c'est un peu le coup dur pour lui, mais c'est
la star en ce moment, Davis au Bayern, oui, tout le monde en parle.
Ok, il va falloir.
Non, mais après, Eric, il y a deux problèmes. Le premier, c'est le montant. C'est-à-dire que peut-être que le Bayern est OK pour le vendre, mais pas n'importe quel montant. Et 80 millions d'euros, c'est pas dit que le PSG est capable de mettre ces montants-là. Surtout, on sait les investissements que le PSG va devoir faire ailleurs. Et ensuite, il y a quelque chose qui va dans le sens du PSG. C'est l'envie aussi de Lucas Hernandez de plus en plus de partir. Il se sent pas très bien du côté du Bayern. Et un joueur qui se sent pas très bien, c'est difficile de le conserver.
Bien sûr. Elle va être là. C'est lui qui va tout déclencher. S'il dit ouvertement à ses dirigeants, voilà, moi, ça me va pas, ça me plaît pas, ils sont pas contre le fait de le conserver, et puis ça peut avancer. Après, ça sera une question de moyens. Après, est-ce que le Bayern gardera un joueur contre son gré dans la période actuelle, j'en suis pas sûr.
Il était arrivé avec le précédent entraîneur aussi, ça change les choses. Ouais. Et il avait dit juste avant de signer au Bayern qu'il n'était pas insensible au PSG. Oui. Je me souviens, on en avait parlé.
Non, je pensais que tu allais dire autre chose. C'était un Marseillais qui a dit un jour pourquoi pas jouer à l'OM. Il a jamais été contre le PSG, voilà.
D'accord.
Alors, plutôt son frère qui est un peu plus un peu plus ferme.
Oui. Alors Dugas, sur Leonardo, est-ce que selon toi il joue gros cet été?
Écoute, je crois que pour le Paris Saint-Germain, c'est une opportunité, c'est une aubaine d'avoir autant de joueurs en fin de contrat qui vont partir. Voilà, donc il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper, c'est des joueurs dont ils ne voulaient plus, les choses sont claires, puisqu'ils leur ont proposé aucune prolongation, donc c'est clair dans la tête des dirigeants et de l'entraîneur et des actionnaires, ils ne veulent plus de 4 joueurs assez importants, même si Kurzawa l'est peut-être un petit peu moins que Meunier, Thiago Silva et Cavani. Donc c'est une chance, il faut pas qu'il se manque, effectivement, il va y avoir des opportunités, il y a un problème financier pour tous les clubs aujourd'hui dans le monde. Comment vont redémarrer les championnats, le public, enfin bon, comment ça va se passer, on sait pas trop, donc il va falloir être attentif. Le Paris Saint-Germain a une chance quand même énorme, c'est d'avoir des liquidités, c'est quand même pas un club qui se retrouve en difficulté. Ils vont se délester de salaires très importants, très 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 important, notamment Cavani et Thiago Silva. Donc oui, je suis pas inquiet non plus, hein. Leonardo a la compétence, il connaît très bien le football, il a ses contacts un peu partout. Il s'est rarement trompé, il a du crédit, il suffit de voir les mecs qui sont passés derrière lui, comment ça a été compliqué pour eux de faire la maille et de bien faire les choses. C'est pour ça que Leonardo est revenu et que ça a été une chance pour le Paris Saint-Germain que Leonardo soit revenu. Faudra pas qu'il se trompe, c'est un test important, c'est un moment important, moi je suis pas spécialement inquiet, c'est une chance, il faut savoir la saisir, et là j'ai toute confiance au Paris Saint-Germain, il faut passer un autre palier, il faut une nouvelle fois avancer. C'est toujours difficile pour les clubs de il faut chaque moment comme ça, c'est un moment charnière avec tous ces départs, il faut arriver à inculquer quelque chose de nouveau, une nouvelle force, bien identifier ce qui a manqué au Paris Saint-Germain, ce qui manque au Paris Saint-Germain encore pour s'inscrire dans la durée. Peut-être que le Paris Saint-Germain va gagner avec des champions aussi, on n'en sait rien, c'est fort possible, mais faut pas que ce soit qu'une fois. Un club comme ça, il veut être dans les demi-finales tous les ans, donc il faut s'inscrire dans la durée, il faut redonner quelque chose de neuf et de nouveau. C'est une chance, c'est une opportunité, il va pouvoir travailler, il a les moyens, donc voilà.
Le nerf de la guerre quand même, après cette période, après Covid là, et un petit peu récession économique, c'est qu'ils sont solides. Non, Momo, le PSG, c'est quand même un des clubs qui a le moins souffert, ou qui souffre le moins de l'économie du foot, non ?
Alors c'est un club qui a, Eric, c'est assez antinomique, il y a un club qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Ils ont perdu quasiment 207 millions d'euros avec cette crise du Covid, notamment les charges. Parce que c'est assez paradoxal, mais les petits clubs ont profité de la crise du Covid parce qu'ils n'ont pas donné de salaire, etc. Mais les très grands clubs, eux, ont dû donner des salaires. Et notamment le PSG, la Juve. La Juve, on parle de 125 millions d'euros de pertes durant cette crise. Le PSG, c'est 200 millions d'euros en tout. Donc, ils ont mal vécu, j'ai envie de dire, la crise financièrement.
Mais quand tu dis de pertes, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est des salaires qu'ils devaient donner quoi qu'il arrive. C'est de la perte parce que de l'argent n'est pas rentré.
En fait, voilà, pardon, je retire. C'est un manque à gagner. Voilà. En fait, si tu veux, c'est un manque à gagner de quasiment 200 millions d'euros. C'est très lourd pour eux. En revanche, vu que l'actionnaire est très fort, très puissant, il n'y aura pas de souci pour injecter de l'argent dans quelques semaines et pour permettre au club d'être encore plus compétitif cet été. Donc là, ce n'est pas un problème d'argent. Tu as raison sur ce point-là. Mais ils ont souffert de la crise quand même.
Voilà. Donc Eric, ça va te jouer là-dessus. Enfin, tu penses que toi, le PSG aura quand même les reins solides pour sortir gagnant de l'après-crise.
Je pense que le PSG fait partie des. On va en mettre combien, une dizaine de gros clubs européens qui veulent gagner la Ligue des Champions, qui ont d'énormes moyens et qui se donnent les moyens d'aller la chercher. J'ai l'impression que c'est un de ceux qui a peut-être le moins souffert.
Et alors Leonardo là-dedans, puisque donc c'était la base du débat, tu le sens capable de relever ce défi, plus encore, est-ce qu'il joue sa crédibilité plus encore qu'au quotidien dans ce mercato-là ?
Pour moi, quand tu as ce poste-là au PSG, tu joues ta crédibilité régulièrement. Lui, il a quand même montré, quand il est arrivé, au début du projet, qu'il avait eu le nez pour récupérer certains garçons, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs, ou qui sont en fin de cycle aujourd'hui. Qui mieux que lui pour enchaîner ce nouveau cycle maintenant. Là où Dugas a raison, c'est que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux recruter judicieusement chaque fois. Les joueurs valent cher, tu te trompes encore plus quand tu as de l'argent. Donc on va voir ce qui va se passer. Et bien sûr que il va être jugé sur cette intersaison-là qui... Alors il y a un problème, c'est qu'on est en train de parler de la saison prochaine sans que cette saison soit finie finalement, puisqu'il y a encore ce mois d'août où, imagine, ils vont la chercher cette Ligue des Champions. tu dis quoi? Tu dis bravo, bravo Monsieur Leonardo, non?
Oui, ça n'empêche qu'il faudra reconstruire
voilà.
quand même.
Non, mais les je sais bien, je sais bien. Mais tu reconstruis pas pareil
oui, oui.
si tu vas la charger que si tu vas pas la charger ou ouais. si tu te fais taper un quart de finale sur le fameux match. Tu vois, c'est là où c'est un peu délicat de faire presque un bilan aujourd'hui alors qu'il y a quand même le meilleur qui arrive là.
Ouais, donc, faut partir de l'idée que tu qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas, faut ça change
non,
rien.
Oui, mais ça fait rien quand tu gagnes.
Oui.
Tu vois?
Alors, il y a une autre phrase sur laquelle on peut rebondir aussi, Mohamed, c'est sur Kylian Mbappé. Il dit, c'est le futur du PSG. Alors, est-ce que c'est si évident que ça? C'est le futur du PSG.
En tout cas, dans la tête de Leonardo, c'est le futur du PSG. Dans la tête de Mbappé, ça, c'est autre chose.
Le contraire.
Voilà. Fin de contrat en 2022 voilà, pour lui.
Il lui reste deux ans de contrat. Il n'a toujours pas prolongé, comme Neymar d'ailleurs. Mais au sein du PSG, on dit que les situations sont différentes. Éric Dugas, Neymar gagne 36 millions d'euros. Personne ne lui donnera ce salaire-là ailleurs. Il a eu un salaire astronomique. C'est un braquage. Alors que.
Sans la cagoule.
Ouais, voilà, alors que Mbappé, oui. lui, gagne moins, beaucoup. Enfin, quand je dis beaucoup moins, ouais, gagne une somme.
Picard.
Voilà. Non, ça c'est un Marseillais qui dit ça.
Non, c'est Éric Dugas la comparaison.
Voilà. En gros, gagne moins. Il a eu des propositions de contrat,
oui, Eric, bien sûr.
De
oui.
prolongation de contrat. Ça discute, mais il a toujours pas répondu à ces demandes-là. Donc Leonardo, quand il dit ça, c'est aussi un petit coup de pression amoureux en faisant je te cajole et je te complimente
mais,
quoi.
Mais là on va avoir que de ça les mois à venir. Ça va être que des câlins à Mbappé et c'est logique. Il y a un moment de séduction. Il va y avoir plein de choses. Ils veulent le prolonger. C'est clair, net et précis. Et ça fait partie du jeu.
On a essayé ça avec toi. Antoine, t'avais plein de câlins, mais ça n'a pas suffi.
Alors je suis tombé amoureux, je te cache pas, mais ça suffit pas.
Très bien.
Ça suffit pas.
Non. Alors, les jeunes, maintenant, du PSG, alors là, c'est un sujet récurrent entre vous deux, Eric et Dugas, hein, depuis les 4 ans de Team Dugas, la gestion des jeunes, des centres de formation en France, etc. Pourquoi, donc là, on se tourne vers Loïc Tanzi, pourquoi le PSG n'a pas réussi à convaincre Tanguy Kouassi de signer au PSG?
Il nous avait déjà très bien expliqué les fois d'avant quand on a vu beaucoup de jeunes partir.
Ouais, par Eliadji la dernière fois, exactement. Ouais.
La stratégie est assez claire et elle avait été très bien expliquée par
Loïc. Là, pour le coup, c'est un tout petit peu différent pour Tanguy Kouassi puisque c'est pas l'aspect financier qui était le critère numéro un et c'était pas le temps de jeu non plus puisque l'aspect financier, c'est le PSG qui a fait la plus grosse offre de toutes les offres qu'il a eues sur le marché. Le critère numéro un de son départ, c'est la stabilité du club. En fait, ils ont parlé au tout début avec Antero Henrique la saison dernière. Ça a commencé à ce moment-là les négociations de contrat pour son premier contrat professionnel. Ça s'est assez mal passé avec Antero Henrique. Ça s'est bien passé ensuite avec Leonardo. Mais aujourd'hui, ils ont fait un constat. Depuis 5 ans, il y a eu 5 directeurs sportifs différents au Paris Saint-Germain. Il y a eu 4 entraîneurs différents. Et même si ce que disait Leonardo et ce que disait Thomas Tuchel était très intéressant pour Tanguy Kouassi, il ne savait pas si Thomas Tuchel et Leonardo allaient rester au Paris Saint-Germain encore sur le long terme, encore 2-3 ans, comme ce sera le cas dans son nouveau club. En gros, il veut un club où ce sera stable, où il sait que les hommes qui vont lui parler et qui vont lui présenter un projet seront encore là sur la longueur de son contrat. Et ça a été le critère numéro un pour son choix.
Ça se comprend, hein. Sincèrement, ouais. Ça se comprend. Bah, c'est bien parce que ça part de l'idée que ce gamin met son temps de jeu et la stabilité affective, émotionnelle.
Il n'y a pas beaucoup de grands clubs européens qui permettent cette stabilité.
Non, mais
qui ont le même entraîneur, directeur sportif.
Il n'ira pas dans un grand club européen. Il y a un club intermédiaire à trouver. C'est un garçon qui a montré beaucoup de qualités. Voilà, plein de choses très intéressantes. Mais il y a un club intermédiaire à trouver.
Normalement, il devrait quand même rejoindre un grand club européen, Christophe.
Ah ouais?
Oui, il va rejoindre un grand club même.
Ben oui,
qui bien sûr.
Non, c'est pas parce que je sais pas.
En Italie, en Espagne, en Angleterre ou ça?
Je sais, franchement, je sais pas le nom du club.
On est dessus du gars.
Si j'avais le nom du club, je te le donnerais du gars, mais j'ai pas le nom du club encore.
Bon, d'accord.
Ouais, bon. Alors l'argument,
c'est juste, ouais. Il va rejoindre un grand club.
L'argument
parce
est bizarre.
Il quittait le Paris Saint-Germain, il voulait pas quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre un club intermédiaire.
Après,
pour rejoindre un grand club.
Après, c'est vrai que faut quand même reconnaître que dans les grands clubs aujourd'hui dont le Paris Saint-Germain fait partie, c'est un des clubs les plus instables au niveau de sa direction. C'est clair, c'est vrai, c'est net. Les autres grands clubs sont quand même très stables à ce niveau-là. Donc c'est une raison qui a du sens. Qui paraît un peu tiré par les cheveux malgré tout pour moi, mais c'est vrai, c'est à mon avis le constat est réel.
D'accord.
Mais c'est un club où il y aura de la place pour s'épanouir, et mais
enfin, où il faut quand même que quand déjà t'as l'argument financier et le temps de jeu, parce que on est passé un peu vite, mais au niveau du temps de jeu, il a quand même eu.
Mais il a joué
l'année prochaine, peut-être que l'année prochaine il aurait eu ce temps de jeu, mais si Thomas Tuchel s'en va l'année d'après et que lui il a signé un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain, et que le Paris Saint-Germain lui dit bah écoute, l'année prochaine tu restes quoi qu'il arrive,
dans quel grand
attends,
qui est là pendant 4 ans.
On vient de parler d'Hernandez qui est champion du monde, qui est allé au Bayern, il y a eu changement d'entraîneur, il est dans la merde. Donc c'est l'histoire du football, ça.
Bah oui, mais c'est eux, dans leur réflexion, ils voulaient un club où ça change moins d'entraîneurs que d'autres clubs.
Et
où ça
change moins de directeur sportif. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup moins, tu vois. Ça sert à rien de trop réfléchir. Au bout d'un moment, il faut. Ça sert à rien.
C'est une réflexion qui a pris plus d'un an.
Là, c'est un cas particulier, vraiment très particulier, parce que ces derniers temps, on a des gamins qui n'ont jamais mis le pied en Ligue 1, qui partent de leur club formateur, ce qui devient un très gros problème. Et ce qui fait l'effet inverse maintenant, c'est que les clubs font signer pro des gamins qui ne jouent même pas en national. L'OM vient de faire signer 6 gamins qui jouent même pas en réserve, pour justement pas se les faire piquer. Donc l'effet pervers de cette histoire, c'est que de peur de se faire piquer les mecs maintenant, il faut signer des garçons qui... Il va y avoir énormément de cas, c'est-à-dire que là sur les 6, s'il y en a un qui réussit, c'est un grand miracle. Bordeaux, je crois qu'ils sont dans le même cas que ça. Voilà. Et là, par contre, on a un garçon qui a mis le pied à l'étrier, qui a joué en pro. C'est là où c'est particulier.
Et qui avait la confiance de Tuchel et de Leonardo.
Et exactement. Donc où tu vas retrouver tout ça, je veux dire, de partout où il va aller, il va avoir ça, voire peut-être encore au pire. Et ça nous montre malgré tout, parce que il y avait eu le débat sur l'IAG à l'OM avec les dirigeants, mais qu'est-ce qu'il faut et tout. Mais tous les clubs sont soumis à ce problème-là, même en France, et même le grand PSG, et même Lyon, puisqu'il y a le cas Kaloulou, qui est quand même un club formateur réputé pour faire jouer ses jeunes, et qui même lui ne va pas arriver à garder un jeune. Tu t'imagines dans quoi on est là aujourd'hui?
Oui, alors après, tu as raison, Eric. Alors après, l'erreur, elle part d'Antero Henrique, parce que si les négociations s'étaient bien passées il y a un an ou un an et demi, peut-être qu'il aurait signé, Loïc. Non, je ne sais pas, je pose la question à Loïc. Loïc? Si ça s'était bien passé avec Antero Henrique, quand ils ont commencé à discuter d'une prolongation de contrat à cette époque-là, ça aurait pu se faire.
Il aurait déjà signé son contrat la saison dernière. Ça fait partie du fait qu'il parte. C'est parce que ça s'est mal passé au début avec Antero Henrique. Ça s'est bien passé avec Leonardo. Et qui sait ce qui va arriver dans le futur si Leonardo s'en va?
Mais quand tu rates un jeune comme ça dans le discours, dans le dialogue, ils se vexent, ils partent vite, ils sont sollicités.
Oui, mais alors, donc, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, pour ne pas les rater, tu les fais signer. Quand ils ont même pas mis le pied en national, et du coup, tu as une casse, c'est pas possible.
Mais Eric, t'as entièrement raison. On tire souvent sur les clubs, mais l'histoire
la nouvelle loi du football, loi du travail qui fait ça aujourd'hui.
Il y a aussi un autre élément. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de donner le premier contrat pro. Le premier contrat pro ne peut pas dépasser 3 ans.
C'est le gros problème.
Et c'est un énorme problème pour les clubs, parce que un plus gros club arrive européen ou un plus grand club français et arrive et tue le club et récupère le gamin au bout de la première saison quand il a fait 8-10 matchs, on s'est rendu compte que c'est un bon joueur, et ça fait que derrière il y a des offres de contrat qui sont assez énormes. Bon. On voit ça à Nancy, on voit ça à l'OM avec l'IAG, mais le PSG est victime de ça aussi.
Il faudrait que tu m'expliques, il y avait le contrat élite qui te faisait signer 2 ans un gamin plus 3 ans professionnel derrière, c'est-à-dire qu'il y avait 5 ans.
Il existe encore. Plus personne ne le fait signer ce contrat.
Il existe toujours.
Le contrat élite existe encore, Eric.
D'accord.
Mais plus personne l'utilise, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le foot, tu passes de stagiaire à stagiaire pro. Et en fait, tu passes d'un contrat pro parce que les gamins ont 16-17 ans quand ils signent des contrats pro.
Dernière précision, Louis.
Juste important, c'est que cette année, le Paris Saint-Germain a fait monter 2 joueurs en pro, à Auchiche et Tanguy-Kouassi. Ils ont fait jouer les 2 joueurs qui n'avaient pas signé de contrat professionnel. Et c'est un très mauvais message qui a été envoyé pour le reste du centre de formation, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient signé des contrats professionnels. Et tous les jeunes sont en train de se dire au PSG, en fait, il ne faut pas signer professionnel pour espérer jouer avec les pros et ensuite partir, parce que si on signe professionnel, on reste avec les U19 et on ne joue pas avec les pros.
Ouais. Merci. Bah,
après, c'est pas une énorme perte non plus sportive. C'est pas.
Comment tu le sais, ça?
Comment il va évoluer?
Tu as vu le nombre de jeunes?
Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est parce que c'est pas le projet du Paris Saint-Germain. On l'a vu ces dernières années, faire partir des jeunes assez rapidement et mettre une grosse pourcentage, un gros pourcentage à la revente éventuellement quand
ils partent. Disons que ça, Duga, t'as raison sur les joueurs pas très bons, quoi. Mais si t'as vraiment un phénomène, un crack qui serait titulaire dans ton équipe de Ligue des Champions, c'est embêtant.
Mais dis-moi, regarde le crack, je l'espère, je sais pas, je sais votre avis.
Regarde le nombre de joueurs sortis du centre de formation de Paris qui n'ont jamais joué en pro et qui jouent dans des bons clubs européens,
clubs européens, mais titulaires dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, il n'y en a pas 50.
Oui, mais attends. Tes joueurs, dis-moi, tes joueurs d'Apoueg que tu achètes, les Kerrer, les Agadou, dis-moi, si c'était jeune du centre de formation, tu vois, je veux dire, et peut-être que dans le lot, tiens, Mbappé qui te
fait. On arrête là, on fera le centre de formation de l'OM aussi à un moment, vous inquiétez pas. Merci Loïc Tanzi. Merci
Mohamed. Il y a eu 6 pros qu'on signait là.
Ah oui, c'est génial.
Super formation.
Merci Duga, merci Eric.
Mais oui, en plus, c'est la vérité.
Mais bien sûr, dans un instant. Si vous voulez réagir, bien sûr, à ce qu'on vient de dire sur le PSG, 32-16, on vous donnera la parole. Et dans un instant, Christophe Galtier veut entraîner l'OM un jour. Est-ce que ce serait le meilleur à ce poste? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h33. Tim Duga continue avec Jean-Louis Tour, avec Eric Dimeco. Ça va être le moment de parler de l'Olympique de Marseille et d'un jour peut-être son futur entraîneur.
Exactement, Christophe Galtier. Le journal moyen sera là également à 18h45 avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut les copains.
Salut Adrien.
Eric Dimeco. Eric inspire les artistes marseillais. C'est une source d'inspiration, Eric Dimeco. Il inspire Duga depuis 4 ans sur RMC.
C'est vrai.
Et il inspire les grands artistes
plus que ça encore.
Je vais vous faire écouter ça. J'ai pas tout compris, vous allez m'aider à tout décrypter, mais
d'accord.
C'est intéressant.
Saucisse, encore, hein.
Très bien, à tout à l'heure Adrien, merci. Christophe Galtier donc, l'actuel entraîneur de Lille, était en interview hier au CFC sur Canal, et on lui a demandé s'il avait toujours dans la tête l'envie d'entraîner un jour l'Olympique de Marseille.
Mais en tant que Marseillais, je vous réponds que oui. Oui. Mais on n'entraîne pas l'OM dans n'importe quelle condition. On n'entraîne pas l'OM dans n'importe quelle condition. Je pense qu'il faut être armé, il faut être en pleine forme. Mais c'est un club qui laisse personne n'est sensible, ça c'est sûr. J'aimerais entraîner Marseille.
Alors, la question est simple. Christophe Galtier, ancien joueur de l'OM, entraîneur désormais qui a une belle expérience en Ligue 1, qui est peut-être le meilleur entraîneur français de Ligue 1 actuellement, et qui connaît Marseille puisqu'il est né là-bas, est-ce que ce serait le meilleur pour ce poste-là? 32-16 pour en débattre. Duga, t'en penses quoi?
Le meilleur, je sais pas, ça serait le meilleur, mais pourquoi ça serait... Il serait pas candidat et pourquoi il mériterait pas d'entraîner l'OM? Pourquoi ça serait le moins bon? Je pense qu'il a tout. Et puis je trouve que son analyse elle est très très juste. Déjà dans ce qu'il dit, je trouve que c'est très intéressant. C'est un oui qui est argumenté aussi en disant c'est vrai que l'OM c'est particulier. Ça prouve qu'il connaît parfaitement bien le club, qu'il faut y arriver avec des certitudes peut-être un tout petit peu plus qu'ailleurs, avec un gros mental, avec un gros physique aussi, parce que être entraîneur, même s'il fait pas d'entraînement, ça tire sur la couenne et ça demande beaucoup d'énergie physique, psychologique, c'est un club très particulier qui t'use. Donc déjà il comprend ça, il sait ça, il le sait depuis bien longtemps, il avait pas besoin de mon avis pour ça, mais je pense que c'est un entraîneur qui a su franchir les étapes. Il a commencé adjoint, ensuite à Saint-Étienne, ce qu'il a fait, chapeau, ce qu'il est en train de réussir à Lille, chapeau aussi. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a un gros caractère, mais qui a aussi appris à faire confiance. On le voit dans ses analyses sur le travail qui est effectué à Lille, où chacun est à sa place, où ses relations avec Luis Campos, avec la direction de Lille, ça se passe très très bien aussi. Je pense que c'est un entraîneur qui à travers son expérience a appris beaucoup de choses. À Saint-Etienne, ce qu'il a fait, il tenait la baraque à lui tout seul. Donc voilà, je pense qu'il a étoffé il s'est un petit peu étoffé, il a montré beaucoup de force, d'esprit de décision. Après, je comprends que effectivement, il a envie un jour d'entraîner l'Olympique de Marseille, et c'est logique. Et puis Marseille, de toute façon, c'est quelque chose de particulier. Moi, je l'ai toujours dit, même si tu es joueur de foot, Marseille, ça te marque à vie. C'est une chance de pouvoir jouer à l'OM, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Tu vas te confronter à quelque chose qui n'existe pas en France. Voilà. Si t'as pas la chance d'aller à l'étranger, va à Marseille. Tu vas voir ce que c'est que la passion. Tu vas voir ce que c'est que la pression. Et c'est fantastique à vivre. Même toi, humainement, ça change un homme. Tu sors pas d'un club comme Marseille, ou t'arrives pas dans un club comme Marseille. comme ça par hasard non plus. Donc c'est passionnant à vivre. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Et au bout d'un moment, t'as besoin de te frotter à ça. Et il a vu, il a fait Saint-Etienne, il a fait Lille. L'étranger, ça avait failli se faire, ça s'est pas fait. S'il a la chance d'aller à Marseille, je pense que ça serait une chance pour lui. Et à mon avis, peut-être une bonne opportunité aussi pour l'Olympique de Marseille. C'est un des meilleurs entraîneurs aujourd'hui en Ligue 1. Donc oui, l'idée me séduit.
Eric.
Moi, pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Je pense que aujourd'hui, dans le projet avec l'économie à l'OM, c'est le meilleur entraîneur possible. Notamment puisque on sait aujourd'hui que Villas-Boas va faire l'année et qu'il fera pas plus. Je pense que l'OM serait bien inspiré de pas laisser passer cette occasion-là. Parce que c'est, tu l'as dit, c'est le meilleur entraîneur français de Ligue 1.
Après, il n'y a pas vraiment d'occasion parce qu'il est sous contrat encore avec Lille.
Oui, mais bon.
Après, c'est pas comme s'il était libre, voilà.
Oui, non, mais il a des arguments à faire valoir quand même. Il fait le job plutôt très bien à Lille. Il a fait très bien aussi à Saint-Etienne. Il est capable, il a montré avec des clubs qui ont une économie limitée de faire des miracles. Donc dans le projet marseillais aujourd'hui, je vois pas qui d'autre. Et puis en plus, c'est petit d'ici. Et c'est pour ça que je dis c'est dans l'ordre des choses parce que. Je ne vois pas comment cette histoire-là ne pourrait pas arriver. Alors après, ça finit bien, ça finit mal, ça personne ne peut le savoir. Mais il a été formé au club, il a joué pour ce club-là, il est attaché à ce club-là, il est attaché à cette ville-là. Je trouverais dommage que ça n'arrive pas, parce que je le répète, vu. Alors tu me dirais, l'OM aurait l'économie du PSG. Tu veux aller chercher des noms. Et encore, les noms, on le voit à Paris, ça marche pas toujours. Donc voilà. Mais là, dans l'économie aujourd'hui, c'est attention. Je le répète, ce qu'il a fait à Saint-Etienne et Lille avec les moyens qu'avaient ces clubs-là, c'est miraculeux à chaque fois. Et donc j'aimerais le voir ici. Peut-être que ça se fera jamais. Moi, je trouverais ça dommage. Voilà. Alors il y a le côté peut-être. Passionnel qui me fait parler aussi parce que c'est pote, on a été formés ensemble, mais je trouverais ça dommage parce que c'est rare, tu sais, les entraîneurs, il y a eu Gérard Gilly, il y a eu Roland Gransard bien avant, dans le football moderne, il n'y en a pas beaucoup, hein. Roland, pardon.
De quoi,
Roland,
Albert Raymond.
Il y a eu coach,
Albert,
Raymond, coach. Oui, coach Albert aussi, ouais, tiens, ouais. Il y en a eu plus que ce que je pensais, tiens, raison. Mais Albert, Roland, Gérard et Roland.
Ouais. Ça remonte un peu aussi.
Cazot qui n'est pas Marseillais, il a joué au club, mais qui n'est pas Marseillais, Cazot.
C'est là-dessus que j'allais te relancer. Est-ce que quand on est Marseillais pur et dur, c'est pas plus difficile de s'imposer à Marseille? Ok, on connaît le contexte, etc., mais on connaît aussi beaucoup de gens.
Faut... Regarde les garçons que je t'ai cités, Roland Gransard. Quand il arrive, il faut monter le club
à Nigo aussi.
Première division. Ah, il y a eu José aussi. Putain, mais il y en a eu plus que ce que je pensais. Oh. C'est dingue. Tu regardes les 5, les 4 que j'ai cités, ou 5.
Ouais, ils ont tous réussi.
Ben, quand même.
Ils sont tous partis essorés, par contre.
Ah, ben oui, parce que par contre, quand tu es du cru, tu souffres. Hein, parce que tu peux pas t'isoler. Les mecs, ils te fatiguent toute la journée. Hein. Tu peux pas t'échapper. Villas-Boas, il peut s'échapper. Hein. C'est-à-dire que personne ne l'embête. Là, tu es 24 heures sur 24 entraîneur de l'OM. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Mais Christophe connaît le club. Hein. Il sait les problèmes qu'il y a. Hein. Ouais, non, mais sur le 5, oui, il y en a plus que ce que je pensais. Et ils ont tous réussi.
Ouais, ouais.
Comme quoi, connaître l'environnement de ce club-là, c'est peut-être un atout. Hein.
Voilà. Bah alors, dans ce cas, il faut que tu retournes au club, Eric.
Non, des pros.
Ah si, il faut le head of football.
On a parlé des professionnels.
Ouais, mais il faut rappeler qu'on attend toujours un head of football.
Je suis head de rien du tout. Déjà, j'essaie d'être head à la maison. Même pas head à la maison.
Si Galtier t'appelle, tu dis non.
Mais arrêtez de faire des raconter des
saucisses. Un ticket entre vous deux, bah oui.
C'est un métier, le football. Et il y a des gens qui
mettras l'ambiance, tu feras des blagues, tu lui feras rire les mecs et tout. C'est important l'ambiance et tout. Tu feras des kikadis.
Tu diras les derniers temps en équipe de France, je me demande si c'est pas pour ça que je venais. Donc ça m'inquiète un peu.
Allez, on en reste là sur l'OM, bien sûr. Et sur Christophe Galtier, on revient dans une seconde avec donc le journal moyen d'Adrien Aigouin. À tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 18h46, Tim Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Eric Dimeco. À partir de 19h, les amis, nous allons revenir sur la carrière de Karim Benzema.
Et revenir sur la situation compliquée pour Antoine Griezmann, de nouveau ce week-end, sorti avec le Barça, alors qu'il n'était pas auteur d'un très gros match. Fred Hermel sera avec nous tout à l'heure. Tout de suite, c'est le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas aujourd'hui sur RMC. De la chanson encore, de la chanson dans le journal moyen, on aime ça. Eric Dimeco inspire des artistes marseillais. Une belle histoire de maillot. encore à Marseille. Et puis une blessure au Borussia Dortmund qui concerne un élément important du club. Vous êtes prêts les amis?
Oui, c'est parti.
J'espère que vous n'avez pas oublié. Non. Aujourd'hui c'est un anniversaire très important. L'anniversaire du président d'honneur du Nîmes Olympique. Vous avez oublié
ça? Oui, bien sûr, j'ai oublié.
Oh, vous avez oublié.
C'est Jean-Jacques, hein.
Oh, vous avez oublié.
Ah, l'embrasse.
Bon anniversaire à lui.
Jean-Jacques. Vous avez oublié ça,
non,
c'est terrible pour
oublié.
Vous.
Moi, j'ai pas oublié.
Vous écoutez RMC, c'est le 337e journal moyen de l'histoire de Super Moscato Show.
Non.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Duga.
Adrien Aigouin.
J'ai écrit de l'histoire du Super Moscato Show.
Mais dis-moi, même pas le problème.
C'est terrible ça.
Adrien, tu es d'Adrien Aigouin depuis le début, depuis la première.
Non, ils m'ont accueilli après. Quand ils ont vu que ça marchait pas, ils m'ont accueilli pour
commencer. Quand les scores étaient pas bons, ils t'ont d'accord.
À partir du moment où je suis arrivé, ça s'est remonté.
Tout ça, c'est grâce à toi finalement.
En partie, mais on en parle pas beaucoup avec Duga par pudeur, tu vois. C'est pas. Voilà. Le mec, il s'en rend vite. Il se passe beaucoup de choses à Marseille, Eric, chez toi. Ressortez-moi le jingle OM, s'il vous plaît.
Il va falloir gagner.
Ici, c'est Mars.
Il va falloir mettre des sous.
Puis, c'est plus des gamins maintenant. Hein.
Atmosphère tendue volcanique.
Ce sont des messieurs.
De la zig automatique de Maclé.
Ah, il est bon, ce jingle. Une histoire qui commence très, très mal pour un supporter de l'OM ce week-end. Un supporter dégoûté qui exprime même sa détresse sur Twitter. Il s'appelle Prince Joestar. Et il publie : je viens d'aller récupérer mon maillot de l'OM que j'avais déposé hier pour qu'on me le floque Alvaro Gonzalez au magasin de l'équipementier à Paris, et on m'a arraché mon sac dans la rue en rentrant. Me conseillez-vous d'aller porter plainte ou est-ce que ça sert à rien? Il met même en ligne une photo du ticket de caisse du magasin avec le maillot qui était prêt à être floqué, etc. Oui. Et là, magie de Twitter, magie du foot, magie de l'Olympique de Marseille. Alvaro Gonzalez, une des stars de l'OM, voit le message et répond directement à ce supporter déçu. Tranquille mon ami, reste tranquille. Alors il le voit, il dit je vous donne le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Il est sympa, c'est Alvaro Gonzalez, il est toujours actif sur les réseaux sociaux. Il a repéré ce message et il enverra donc le nouveau maillot de l'OM, qui est pas mal, Eric. Je sais pas si vous avez vu du gars Eric, vous, les anciens joueurs de
non.
l'OM.
Alors, non, je l'ai vu, oui. J'arrive pas à me faire une idée, j'attends de le voir.
Blanc, petit col bleu rond. Hein,
non, celui-là, le simple, j'aime bien. Ouais.
Le simple, ouais, le maillot.
Après, le bleu, le avec les monuments, j'aimerais voir parce que ça me fascine, mais je sais pas si c'est beau ou non.
Non, porté sur le terrain, peut-être, c'est pas.
Non, mais après,
le classique est pas mal, avec le petit liseré bleu aussi sur les manches.
Les dessins dessus, quatre tueurs de loin, c'est, ça passe, c'est sûrement. Hein,
non, oui, c'est sûr. C'est sûr.
Mais qui est ce monsieur qui s'est fait voler le supporter
Le supporter, son pseudo sur Twitter, c'est Prince Joestar. Et donc,
je croyais que c'était le vrai Joestar, parce que il est pas
Alvaro Gonzalez vient à son secours et lui offre le maillot. Vous savez qu'à propos de ce joueur, il y a eu un énorme problème sur le flocage des maillots l'été dernier. Des supporters ont été déçus. Parce qu'en fait, souvenez-vous, Jacques-Henri Hérault, lors de la présentation du joueur.
Bien, bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui pour la présentation officielle de notre première recrue estivale, Alvaro Gomez.
Oui, du coup, il y a plein de petits enfants qui ont fait floquer Alvaro Gomez.
Voilà. Bon, il était juste à côté.
Oui, il était à côté, c'était pas gênant, ça va. Ah, c'est pas grave, Eric, c'est Marseille en fait. Et puis Marseille.
Oh non.
Toujours Marseille, non. L'Olympique de Marseille met régulièrement en valeur de jeunes talents, de jeunes artistes marseillais, en mettant en ligne des clips sur le compte Twitter officiel du club. Nouvelle chanson, donc, une jeune marseillaise qui s'appelle Lansky Namek. Est-ce que ça te dit quelque chose, Eric, que tu connais?
Je l'ai vu passer.
Alors, elle nous offre, je cite, un titre qui s'appelle le Freestyle Waddle, c'est le nom du titre. Je sais pas si c'est vraiment du rap, j'y connais pas grand-chose en rap. Écoutez bien le début du passage, elle parle de notre Eric Dimeco à nous, mais elle parle vite, donc essayez de comprendre ce qu'elle dit, c'est pas facile. Vous avez compris les premières notes ou pas, les premières phrases?
J'ai pas dit mon nom, mais
On entend Dimeco.
Elle a Dimeco.
Elle parle trop vite, mais on.
Mais c'est du rap, ça. Hein.
Ah, c'est du rap. On réécoute pour voir.
J'arrive à la Dimeco.
Vous comprenez mieux ou pas? Non.
Oui, on a compris le sens, quoi.
J'aiguise, rime et croc. J'arrive à la Dimeco. Je tacle et vise les côtes. Ouais, depuis Minot. Je me rappelle. Hein. Depuis Minot, ça crame le micro. Génial. Ça crie pour l'OM. Donc j'arrive à la Dimeco. Je tacle et vise les côtes. Encore un préjugé. En caricature, oui. Eric. Mais je savais faire des cintres aussi.
Pourquoi il n'y a pas un artiste qui dit je centre à la Dimeco?
Oui, ça déconne. J'ai fait une roulette avec un sombrero et un petit pot.
C'est quand même terrible, Eric.
Là, c'est la science-fiction.
Ça te suivra jusqu'au bout, Eric. Ça. Tu pourras pas. Là, c'est
bon. Spielberg, ouais.
Non, c'est on écoute le reste de la chanson. Vous aimez bien ou pas?
Oui, ça s'écoute, ouais.
Ouais.
de jeunes talents. Hein, c'est, voilà,
bah moi, j'aime bien quand, quand c'est les filles qui
alors, rapent. Je t'explique. Adrien, régulièrement, donc en réalité, il donne des mots-clés à des jeunes artistes qui ne sont pas pros. Hein,
qui doivent composer
des chansons. Et il y a des gagnants. Et à la fin, il y aura un grand concert. Voilà. Je ne vous dévoile pas tout, mais. Je risque d'être dans le coup sur l'organisation du grand concert.
Il est de partout, il mange à tous les râteliers.
Je mange rien du tout. Je t'ai expliqué que.
Ouais, bien sûr.
Donc là, il y avait des mots-clés, Dimeco, tacle.
Voilà. Ah, peut-être, ouais. Peut-être c'est simplement parce qu'on l'a obligé, ouais, tu sais. Ah, ouais, peut-être c'était des mots-clés. En réalité, il n'y a pas de quoi ronfler, les gars.
Tu feras peut-être la première partie avec ton groupe.
Ça n'a rien à voir, ils vont nous jeter des pierres. Ah, ben oui, c'est sûr que là, si on fait deux notes de ce qu'on joue, nous, devant les petits.
Avec les maillots de Manchester City, tu sais.
Voilà, ouais, alors là, ça fait jeter des canettes, là.
En tout cas, bonne initiative de l'OM. On se moque parfois de la communication à Marseille. C'est pas mal.
Mais ils aident beaucoup la scène musicale.
Et pourquoi l'OM, ils vous font pas jouer à la mi-temps d'un match, Eric? Osiris à la mi-temps.
Parce que ils veulent pas que les gens partent.
C'est la mi-temps, ils sont plus là.
Sans transition. Direction. Je connais bien ce pays, Jean-Louis.
L'Uruguay.
L'Allemagne.
Et quoi que l'Allemagne, l'Uruguay, ça a été longtemps l'Allemagne presque. Hein.
Ah pardon, j'ai anticipé.
Avec une blessure. Oui, alors, c'est quand même assez c'est anecdotique, mais moi je trouve ça fascinant. Düsseldorf, Borussia Dortmund ce week-end. À la toute fin, but d'Erling Haaland et pas Hollande. Je sais pas qui disait ça au début, c'était Eric qui disait Hollande.
Alors, tu me cherches sur ça.
Non.
Tu veux que je balance ou non?
Non. 95e minute, victoire du Borussia à la dernière seconde et là Lucien Favre saute de joie, l'entraîneur du Borussia et la grimace sur le visage.
Claquage,
mollet gauche. Et figurez-vous que c'est la deuxième fois que ça lui arrive. En début de saison, en coupe, il y a un but comme ça à la dernière seconde. Il se lève et là, c'était la cuisse gauche. Ah. Il faut s'hydrater, monsieur Favre.
Et il est fragile, il faut arrêter la viande rouge.
61 déjà. Ans, il faut s'hydrater. Parce que là, ça va pas. Les mecs, ils gagnent à la dernière minute, ils se claquent à chaque fois. Et puis, direction
l'Allemagne.
L'Uruguay,
L'Uruguay
et Cavani a été vexé par Eric Dimeco, puisque Cavani, vous souvenez, je vous ai diffusé ce son-là sur une vidéo, il est en train de faucher là, avec sa faux dans un champ. Ouais. Eric Dimeco.
Ça, c'est impressionnant, Adrien.
Eric Dimeco a dit ouais, alors en plus, il le fait mal. Cavani, pas véritablement quelqu'un de la campagne, son geste est très maladroit.
Ça. J'ai jamais dit ça, mais quel escroc ce mec.
Tu l'as dit.
Quel escroc.
Eric est un grand agriculteur en plus.
Tu rigoles, ma mère travaillait dans les champs. J'aurais aimé que. Toute ma jeunesse, j'ai travaillé dans les champs, moi, pour gagner mes sous.
La semaine dernière,
tu as été dans les champs, oui, ça.
Cavani publie une vidéo où il tond un mouton à main nue, pas facile. Et là, il y a quelques heures, parce qu'il a entendu Eric se moquer de lui, publie une nouvelle vidéo, nouvelle séquence de fauchage dans le champ. Et voilà. Il a progressé, Eric. Tu vas voir cette vidéo.
Il met pas une truie, non?
Non, mais il a les appuis beaucoup plus fermes. Et nouvelle carrière pour Cavani. C'est dans son hacienda, toi qui parles bien espagnol.
Ça ferme, quoi.
Jean-Louis, oui. Ça ferme en Uruguay. C'est à lui, voilà.
Merci, Adrien. Merci. Pour ce journal moyen.
Merci,
Escro. À demain.
Merci,
salut,
Adrien.
Eric.
Merci, Eric.
Je pense
merci,
que le mec disait Hollande. C'était nul. Hollande.
Ah non, mais alors, vous voulez que je vous raconte? J'ai pas le temps de vous raconter ça.
Il se prenait pour le plus intelligent. Moi, je prononce bien.
Non. Il y a des génies chez nous, il y a des génies que décrétés.
On coupe Eric, merci.
Allez, c'est bon, parce que vous allez m'énerver avec ça.
Et dans un instant. Oui, mais Eric veut jamais donner les noms. On me dit donne les noms, mais il veut pas donner les noms, Eric. C'est tout, il est comme ça.
Hollande.
On en parlera avec Manu Petit qui nous rejoint dans un instant.
Jean-Louis, tout à l'heure, j'ai pas aimé, tu t'es moqué de Diams. J'ai pas apprécié.
Ah non,
ça m'a vexé.
Ah, je me suis pas moqué.
Tu es une de mes chanteuses préférées, donc tu m'as.
Ça m'étonne pas.
Ouais.
Je chante un peu.
Allez,
chante la boulette.
Bah oui.
Alors, ouais, je préfère aller faire les boulettes. J'en ai fait tellement. France Afrique du Sud, boulettes. Bam. Allez,
dans un instant, la carrière de Karim Benzema en détail et Antoine Griezmann. Est-ce une erreur de casting au Barça? Tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h02, nous continuons Tim Dugas jusqu'à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour, toujours là mon Jean-Louis.
Oui,
toujours là. Des cérémonies en vrai patron qui tient ses troupes et tout, c'est fou, quel charisme, c'est impressionnant. Quand tu rentres dans une pièce, mon Jean-Louis, il se passe quelque chose.
Ah oui, c'est le charisme, ça t'arrête.
C'est fou, tu me rappelles un peu, non, je veux pas
qui
dire. Non.
Didier Deschamps.
Non, j'allais dire quand t'as. aussi, effectivement. Non, mais surtout quand t'arrives à rentrer dans la pièce, quoi, parce que c'est pas toujours.
Bien sûr.
Merci. Nous accueillons Gilbert Bribois qui est avec nous. Bonsoir, Gilbert.
Salut à tous. Mais il paraît que Jean-Louis, à l'école, quand il rentrait dans la pièce, les autres planquaient leur goûter.
Ouais, ça, oui. Là, je comprends.
Pas mal, Gilbert.
C'est vrai. Même encore aujourd'hui, je vous le conseille. Hein.
Ouais, ça, jamais.
Non, là, je suis au régime, là.
Oui. Ah, et alors, t'en es où, en fait?
Bah, ça descend.
Oui, alors?
On a moins 3 kilos.
Oh, ouf, en 3 semaines?
En un mois.
Oh!
Eh oui? Ah, ouais. Mais bon, c'est maintenant que c'est dur.
Ouais, bah, ouais, ok. Bah, du petit est avec nous également, il va t'expliquer lui comment on fait pour maigrir.
Ah bah, ouais, tu vas être déçu parce que moi j'ai pris 3 kilos en 10 jours.
Non.
Ouais, j'en ai reperdu un ce matin donc.
Ah bon ? Ouais, non, mais toi ça va aller vite.
Ouais.
Bah ouais, mais depuis que les clubs privés ont fermé.
Moi, c'est le déconfinement, moi, qui me fout le cafard.
Oui, t'étais bien à part la personne chez toi tranquille, c'est ça.
Un qui a maigri, justement, le confinement lui a fait le plus grand bien, justement, c'est Julien Cazard. Bonsoir, Julien.
Eh oui, bonsoir. Ah ouais. Bah oui, parce que alors moi, je ne bois que de l'eau. Ouais. De l'eau de vie essentiellement, mais de l'eau quand même. Et je ne me nourris pas. Je ne bois, ouais, et franchement, je le conseille à tout le monde.
Ouais, toi, c'est pas des kilos que tu prends, c'est des grammes, hein?
C'est des litres. Moi je prends des litres. T'as pris combien? Moi j'ai pris 8 litres cet été.
N'oublie pas du gars d'accueillir notre sportif de haut niveau.
Ouais, non, l'homme qui a parlé, la voix qui a compté ce week-end. Une résonance incroyable dans l'Europe entière. Fred Hermel s'est exprimé sur le Barça et on est obligé de faire un sujet. Bonsoir mon Fredo, comment ça va?
Ah, quand tu parles de Jean-Louis, de voir sa réussite. Moi, je l'ai connu avant vous.
Tu y es pour quelque chose.
Ben, moi, je l'ai vu, tu sais, petit pigiste à Madrid et tout. Moi, je reste un petit pigiste, il est patron. Enfin, tu vois, je suis admiratif devant cette réussite.
Et voilà, Ticos. Mon Fredo, vous avez dormi ensemble en plus?
Non.
Dans le même lit, vous avez été, quand vous étiez ensemble, on est pas comme à Madrid.
On n'est pas comme tous les champions du monde 98 qui vous dormez ensemble.
Si je peux donner une anecdote, oui. On était avec Fred, on allait d'un très bel endroit à un autre très bel endroit. Au milieu de ça, on a pris en stop le pauvre Jean-Louis qui n'a pas voulu venir avec nous, qui est déjà rentré dans sa chambre de bonne.
Dans les deux très beaux endroits, le premier c'était Santiago Bernabéu, le stade où on avait assisté.
Le deuxième, tu le sauras jamais.
Le deuxième, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître.
Mais t'as voulu qu'on te dépose, t'as pas voulu venir.
Ah bah oui,
oh, il était mignon.
J'étais content que vous me déposiez chez moi. Bon, bref. Donc.
Comme ça, il n'y a pas de dossier sur toi.
Bah ouais.
Vu ta carrière, tu sais, tu vas aller tellement haut que ne voulez pas qu'il y ait de dossier.
C'était il y a combien de temps, Jean-Louis?
Madrid? Il y a 10 ans.
Il y a 10 ans, il n'y a pas des petits gamins de 10 ans là qui viennent te voir, non?
Non,
avec une moustache un peu.
Je ne suis pas champion du monde 98, je le répète. Donc non, ça ne m'arrivera pas.
Ouais, bon, c'est pas beau.
Dans l'heure qui vient, dans Team Giga, le blind test sera là tout à l'heure. Alors, sachez que Fred Hermel va absolument faire le blind test. Hein, donc évidemment, on l'accueille plaisir.
Je suis là pour ça en fait.
19h45.
C'est comme nous tous.
Oui. On va revenir en détail sur la carrière de Karim Benzema. On parle souvent de ce qu'il fait, de son actu, mais on va revenir quand même en détail sur 2-3 trucs autour de Benzema. Et puis donc on va débuter par Antoine Griezmann, puisque donc lors de la victoire à Majorque du Barça 4-0 ce week-end, la Liga était de retour. Eh bien vous avez peut-être vu passer cette photo d'un Antoine Griezmann remplacé sur le banc, déprimé sur la photo qui a circulé. Il a été titulaire sur cette rencontre, il a joué 54 minutes. Pas du grand Antoine Griezmann, Fred.
Non, pas du grand Antoine Griezmann, mais vraiment, j'ai eu cette phrase sur les heures de casting ce week-end, parce que dans Rotten Regal, vendredi, rappelle-toi, j'étais optimiste. Tu te rappelles? Parce que j'avais lu les déclarations de Griezmann qui disait qu'il avait pu se reposer, qu'il était bien dans son corps, bien dans sa tête. Je vois le 11, Griezmann, il est titulaire, c'est bien. Je vois la disposition tactique, Griezmann est en pointe. Je me dis, ouf, ça y est, il est plus sur un côté gauche, écarté, etc. Bon, je vois le match, je vois que Messi le cherche toujours pas, qu'il préfère chercher Braithwaite de l'autre côté. Et puis surtout,
ah oui, carrément, on en est là.
C'est pour ça qu'il déprime sur le banc de touche quand tu te fais piquer ta place par Braithwaite.
Par Braithwaite, ouais, ça, c'est un peu déprimant.
C'est-à-dire que le premier de sortie, c'est pas Braithwaite, c'est Griezmann. Et surtout, tu dis, il est en pointe. Mais non, en fait, il était vedette américaine, comme dans le musical. C'est-à-dire que Antoine Griezmann n'a fait que préparer le retour de Luis Suarez, qu'il a remplacé à la 56e minute. Et le schéma tactique le positionnement de Quique Setién, c'était simplement de préparer l'arrivée de Suarez, qui revient de blessure et qui ne pouvait pas jouer une heure et demie. Et je crois que Griezmann l'a compris. Donc moi, ça m'a déprimé, pas autant que lui, parce que je vous préviens, je l'ai vu de nombreuses fois faire la tronche. Griezmann. Mais la tête qu'il a sur la photo qu'on a vue partout, c'est pas de la colère, c'est un peu du désespoir.
Mais attends, juste l'histoire de Suarez, en quoi il a préparé le retour de Suarez?
Il l'a jamais mis en concurrence.
Il l'a remplacé.
Mais parce que Griezmann, normalement, il joue à gauche. Sauf que là, il met Braithwaite à gauche, histoire de préparer le schéma, et après, t'as Suarez qui arrive. Voilà.
D'accord.
Et c'est simplement que vous regardez Messi la différence de traitement entre Griezmann et Suarez au même poste. Griezmann a joué en pointe, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est une autre galaxie, quoi. Sincèrement, là, et moi, je vous dis, là, ma réaction, elle est claire, c'est que, voilà, c'est après tout ce qui s'est passé, alors que vous avez Griezmann qui supposait être en pleine forme, voir comment il est traité. Bon, bah, faut qu'il trouve autre chose. Maintenant, c'est fini, quoi. Voilà, c'est la nouvelle normalité de Griezmann. C'est
encore une normalité. Fred, moi je pense que si on parle d'un champion du monde qui a une erreur de casting au Barça, je crois qu'on a un intervenant qui peut absolument parler de ce cas. Il est avec nous d'ailleurs. Bonjour Christophe.
Non mais j'étais pas champion du monde à l'époque.
Je sais, mais tu connais les deux cas. Tu connais les champions du monde.
Manu, tu l'étais toi, Manu.
En revanche, ouais, mais je l'étais moi.
Oui, ah voilà, Manu. Alors on a deux cas.
Il voulait juste se foutre de ma gueule. Non mais c'est tout.
Non, mais c'est vrai qu'on a quand même
toi en bon copain, tu balances le truc à Manu du coup.
Mais non mais c'est vrai, non
mais. En plus Manu il a deuxième point commun, c'est que lui aussi il avait le goût pour les coiffures à crinière, oui. un petit peu flamboyante, quoi. Donc c'est vrai que Manu, c'est un peu toi. Hein.
Bon, alors qu'est-ce que t'en penses, Manu, de la situation
de Griezmann?
Oui.
Mais moi, dès le départ, je trouve que c'était une erreur de casting. Parce que à partir du moment où il quitte l'Atlético Madrid dans les conditions qu'il l'a faites, on se rappelle tous de la communication hein, qu'il a entouré. Je viens, je viens pas. Et après, il fait la cour à Messi en permanence, à qui veut l'entendre, avec le Maté et compagnie. Donc, il a prêté allégeance en arrivant, sachant qu'il arrivait en terminé, il n'avait pas conquis le vestiaire. Et encore aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Donc, sans parler purement sportif de son positionnement sur le terrain, où on sent qu'il est orphelin de ce qui se passait à l'Atlético ou même sa positionnement avec l'équipe de France. Donc, sur les deux situations, c'est un échec pour moi. Donc, il se morfond. J'ai l'impression qu'il perd progressivement sa joie de vivre sur le terrain, sa volonté justement de marquer l'histoire avec le Barça. Et je pense qu'il a dû se faire une raison, en se disant que quoi qu'il arrive, j'arriverai jamais à forcer le destin parce que on me donne pas les armes pour le faire. Donc quelque part, je me dis que tant que tu es pas dans les petits souliers de Messi, bah tu rames à contre-courant.
Alors, dans ses petits papiers, parce que si tu es dans ses petits souliers, lui il en a plus du coup.
Ouais non, tu vois, pour te dire, c'est que là je regardais une stat par rapport au dernier match qui m'a quand même interpellé, quoi. Je veux dire, jusqu'à son remplacement qui était, je crois, à la 57e ou 58e minute. 56e minute, il avait touché à peine 25 ballons. 25 ballons, alors que Bryce White on a touché davantage, que c'est le plus petit quota, même s'il est sorti à l'heure de jeu. Mais ouais, quelque part,
dans ces cas-là, c'est la faute à qui? Non, mais de vous dire, est-ce que c'est la faute au partenaire qui le cherche pas ou à lui qui?
Pour moi, c'est une erreur de casting dans la mesure où ça n'a pas été clairement défini son positionnement sur le terrain. Je vais te donner une réponse. Non, quand t'es très fort, non. Quand tu joues au Barça, en sachant comment joue le Barça, quand tu joues sur les côtés, il faut avoir la capacité à éliminer en un contre un sur ton côté et à prendre la percussion. Chose que il n'a pas ces qualités-là. Il a d'autres qualités incroyables, mais il n'a pas celle-ci. Donc si tu le mets sur le côté en sachant qu'il te faut ces qualités-là au Barça parce que c'est comme ça qu'ils jouent, ils sont collés à la ligne et tu fais la différence. C'est pour ça que Neymar était adoré également des sociaux. Mais si tu le mets sur ce côté-là, en sachant qu'il a des qualités de finisseur dans les 20 derniers mètres, oui. Moi, je peux pas comprendre ce choix sportif. Alors que derrière, tu peux mettre par-dessus tout ce qui se passe depuis son arrivée, toute la communication, les problèmes de vestiaire et compagnie. Aujourd'hui, on a un Griezmann qui se morfond et qui est en train de perdre son football. Alors, l'échappatoire, c'est l'équipe de France, mais ça va durer combien de temps?
Oui, oui. Ouais. Alors, Dugas.
Non, mais... Moi, je me suis trompé, clairement. Je me suis trompé parce que moi, j'étais persuadé que les grands joueurs comme Griezmann, il en fait partie, étaient capables de s'adapter à n'importe quel football, et même au Barça. Après, j'ai certainement sous-estimé, l'identité footballistique du Barça, qui est aujourd'hui représentée, parce que le jeu, quand même, malgré tout, a un petit peu évolué, même s'il y a une identité toujours très, très forte de cette façon de jouer au football, mais surtout caractérisée par Messi. Donc, soit tu t'adaptes au jeu, qui est particulier, soit tu t'adaptes à Messi. Il a réussi à s'adapter ni à l'un, ni à l'autre. Je ne pensais pas que le système, enfin, la façon de jouer du Barça était tellement imposée qu'il arrivera à faire autre chose, qu'il arrivera à faire différemment. Et pour ça, il aurait peut-être pu y arriver, mais je pense avec un autre style d'entraîneur. C'est-à-dire que là, il te faut un entraîneur suffisamment fort, suffisamment solide, pour adapter l'arrivée aussi de Griezmann. C'est-à-dire faire évoluer le jeu du Barça, mais faire évoluer le jeu du Barça tant qu'il y aura Messi, c'est tout bonnement impossible. Donc il aurait fallu un entraîneur suffisamment charismatique, suffisamment fort, peut-être Guardiola aurait réussi, ou un autre, j'en sais rien, pour pouvoir incorporer Messi. C'était pas le cas avec Valverde, parce que je pense qu'il n'avait pas les épaules ni le charisme suffisant pour modifier les choses et pour modifier la façon de jouer le système. Il a peut-être un petit peu essayé, mais ça s'est vite arrêté, parce que c'est Messi qui décide.
Parce que Étienne, il a des épaules, tu trouves ? Il a les épaules de serpent.
Voilà,
Étienne, il a les épaules de serpent, Étienne.
Il en a aucune. Alors, il a essayé courageusement et gentiment de défendre Griezmann après sa performance, qui a été, c'est vrai, effectivement, hier, face au week-end
oui,
raté.
On va simplement rappeler, il a dit que Griezmann est indispensable, qu'il est tout le temps titulaire et tout ça. Enfin, bref,
voilà. Lui, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais, bon. Mais j'ai sous-estimé cette identité footballistique qui est tellement forte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est certainement une erreur de casting, au-delà de la communication qui a été mauvaise. Sportivement, je pense que c'est très difficile. Griezmann n'est pas le premier grand joueur à être passé par le Barça qui n'a pas réussi à s'imposer, à se faire à ce style de jeu très 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 particulier. C'est toujours difficile de l'expliquer quand on est de l'extérieur, mais c'est un style de jeu qui demande à repenser ton football, à repenser ta façon de voir le foot, ta façon de te déplacer sur le terrain. Donc ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, et parfois c'est pas une erreur, c'est pas une tare que de ne pas s'y adapter. Il y a des joueurs qui ont les caractéristiques pour, et il y en a d'autres qui ne les ont pas. Et peut-être que Griezmann, malgré tout son talent, malgré tout son potentiel, il faudra qu'il aille voir ailleurs, et je suis persuadé qu'il fera d'excellentes choses dans un autre football. Et après, il faut avoir aussi le caractère, peut-être, de se dire, bon, mais je me suis trompé. Est-ce que Antoine sera capable d'accepter cette erreur et de reconnaître son erreur? C'est parfois aussi difficile quand t'as un ego, il a tout fait, enfin, ça a été une histoire incroyable. Le Barça, pas le Barça, j'y vais pas, ça peut être un rêve de gosse d'y aller. Il va falloir accepter de s'être trompé, c'est pas toujours facile.
Du gars, est-ce que tu penses pas que si c'est une erreur de casting, c'est parce que c'est le directeur de casting, on lui a pas demandé son avis? Parce que le directeur de casting, c'est pas l'entraîneur au Barça.
Mais c'est Valverde qui a tout fait pour le faire venir, apparemment.
Tu viens dans un club où le patron du club, il veut pas de toi.
Mais
mort. Le directeur de casting, c'est Messi. C'est que s'il veut pas de toi. Tu sais, ça me fait penser à Jordan avec les Bulls. À chaque fois qu'un mec était imposé, c'était mort, hein. Tu peux rien faire contre ça.
Alors, Manu, tu voulais rajouter un truc?
Non, mais moi, je voulais l'avis de Duc. Justement, quand on voit dans le football moderne aujourd'hui, dans les couloirs, on veut toujours des joueurs ultra rapides, capables de faire la différence, balle au pied, en un contraint, il n'a pas ces qualités-là, Grisou.
Et surtout, ça faisait très longtemps qu'il ne jouait plus dans un couloir. En équipe de France.
Atletico jouait soit en deuxième attaquant, soit en pointe.
Tu le sais, Manu, aujourd'hui, comment fonctionne le Barça. Tu occupes des zones, c'est un jeu très tactique. Les joueurs de couloir doivent coller la ligne, la ligne, et après faire des duels, travailler un petit peu avec ton latéral qui est souvent très rapide, qui prend le couloir avec toi, combiner. Mais c'est vrai que cette capacité de Griezmann qu'il a à se déplacer, à faire beaucoup d'efforts, aller sur tout le front de l'attaque, ça convient pas.
Gilbert.
Moi, pour aller plus loin, du coup, parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites, c'est quelle est la porte de sortie? Parce que Madame Griezmann veut rester en Espagne.
Oui, mais bon, Madame Griezmann, c'est pas elle qui est sur le terrain.
Gilbert, pardonne-moi.
Il va pas se faire prêter à l'OM. Hein,
elle est pas contente à Barcelone.
Oui, Fred, elle est pas contente à Barcelone.
Quand elle vient à Madrid, elle se plaint de pas avoir de vie sociale à Barcelone, qu'ils n'ont pas d'amis là-bas.
Moi, j'en vois un, parce que les grands désirs. Oui, exactement. Le désir de Neymar de retourner au Barça, ça peut être.
Je veux dire, tu fais un échange, toi.
Un échange avec une somme d'argent, parce que je pense que Neymar est valorisé beaucoup plus cher que Griezmann à l'heure actuelle, même malgré la crise du Covid-19. Donc, on sait la volonté de Neymar de retourner au Barça. Je me dis que là, Cavani n'a pas été reconduit. Je me dis, il y a peut-être une possibilité pour être en concurrence.
Après, quelle est la valeur,
sortir de la situation.
Ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi la valeur de Griezmann? Quel club aujourd'hui va être
cadet? Oh, quand même.
Il a de la qualité.
J'aime beaucoup.
Aussi.
Il est remplaçant de Braithwaite. C'est vrai que ça fait moins cher.
Moi, j'aime beaucoup. Mais bon, il avait une façon de jouer. Il avait une façon de jouer très particulière du côté de l'Atlético. Là, le Barça, il a du mal un petit peu à s'imposer. Est-ce que justement...
T'as un doute pour son niveau dans des...
Non, mais pas moi, mais nous on est français. Nous on a un œil particulier avec lui. C'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts. C'est quand même un joueur d'une redoutable efficacité, qui est un vrai joueur de football. Je sais pas, je me demande aujourd'hui, est-ce que quel club est-ce que le Paris Saint-Germain a envie d'avoir un joueur comme Griezmann, avec le style Griezmann qui est aussi un style particulier, hein?
Alors on va finir là-dessus, Fred, vas-y.
Non, mais la question de Gilbert est légitime, c'est quoi la solution? Mais là, franchement, vous dites Neymar, le Barça rajouterait un peu d'argent et tout ça. Mais enfin, le Barça n'a pas d'argent pour. Tu vois, moi je crois sincèrement
à Neymar. Neymar, c'est 36 millions par an, ils vont jamais donner ça. Ils n'ont pas l'argent pour donner au Barça.
Ouais, vous oubliez un truc quand même, les gars, hein, c'est que Messi, il n'est pas éternel, et qu'il a 32 ans, et qu'à un moment donné, il va falloir remplacer par une des plus grosses pointures du foot mondial. Mais
ça, il faut avoir des coronets.
Mais Messi, c'est jeune calmant. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'il va mourir.
Oui, mais il faut avoir des dirigeants suffisamment costauds pour dire à un moment ou un autre à Messi, bah, écoute, t'es bien gentil, mais tu vas jouer peut-être un peu moins, il faut préparer l'avenir, et si et là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est Messi qui décidera d'arrêter, Manu.
Alors. Maintenant qu'on a parlé d'Antoine Griezmann, on va refaire ensemble la carrière de Karim Benzema. Alors Benzema, ça fait partie des joueurs sur lesquels on voulait s'arrêter hein, pendant cette période. On a pris le temps de s'attarder sur certaines carrières. Donc sur Benzema, Fred Hermel le connaît par cœur depuis son arrivée bien sûr au Real.
11 ans.
11 ans, voilà. Manu Dugas, vous l'avez vu jouer. Et Gilbert, tu l'as commenté puisque nous avons avec nous Gilbert Bribois, l'ancien commentateur des Bleus.
Et attention, le contre français qui peut être reparti avec Gourou. Gourou qui donne à Wilson, peut donner à Zidane. Il est pas en jeu, Zizou. Il va partir, c'est le Derrick à Casillas. Zidane face à Casillas. Zidane qui donne le fouillage. Zidane qui frappe.
Oh, j'ai des prises.
Ouais, moi aussi.
Ah, il est bon, hein, Manu, tu vois.
Ah, oh, ça, c'est de l'émotion. Voilà. Ah, ça, c'est.
Je le vois, le but, là. Mais alors, moi, ce qui est bien, c'est qu'avec Gilbert, c'est à l'ancienne, on sait qu'il y a but. Bah, il le dit.
Mais alors, à la radio, il faut expliquer les choses.
Oh oui, oh oui.
Voilà.
Bon, alors Benzema, donc Julia, on y va.
Non, des footeurs de merde.
Vous vous souvenez tous de son éclosion à Antoine Griezmann, à Karim Benzema à Lyon, bien sûr, très jeune. Hein. Benzema qui arrive dans cette équipe avec cette fameuse anecdote avec, je me demande si c'est Juninho qui la raconte en premier ou en gros il est dans la causerie où il doit se présenter devant tous les cadres lyonnais à l'époque et il dit bah moi je suis juste celui qui va prendre votre place. Histoire de montrer son ambition et sa confiance en lui à l'époque dans le vestiaire lyonnais. Quelque chose, cette confiance en lui qui parfois peut être un peu mal perçue. En tout cas, Dugas, tu te souviens de ce joueur des premières fois où tu l'as vu, très jeune à Lyon?
Ah, c'était impressionnant. C'était impressionnant. J'avais rarement vu un attaquant être aussi... aussi footballeur, aussi fin techniquement, aussi intelligent dans ses déplacements, aussi disponible. C'était encore une époque, à mon avis, alors où on demandait aux avant-centres d'être avant tout des finisseurs, avec une palette. Il a une palette tellement large, il peut jouer numéro 10, il peut jouer à gauche, il a d'ailleurs joué sur le côté dans un couloir.
Oui. Bah, au début, il jouait à gauche et Fred jouait avant-centre.
Ouais. Exactement. Moi, je trouve que c'est un garçon, un joueur, pardon, exceptionnel. Sincèrement, j'ai souvenir, il me fait penser un peu à Marco Van Basten, tu sais, dans cette capacité qu'avait Marco Van Basten aussi à décrocher, à faire jouer les autres, cette qualité technique. Il y a très très peu de joueurs avec une palette aussi large. Et ce garçon a en plus montré qu'il avait un mental pour résister à tout ce qu'il a résisté pendant 11 ans au Real Madrid. Oui, oui. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est un parcours sincèrement exceptionnel. Alors il y aura peut-être des regrets, il y aura sûrement des regrets par rapport à l'équipe de France et tout ce qui s'est passé. Mais quel joueur de football! Mais ce garçon, quand il touche le ballon, mais il se passe quelque chose. Il trouve des angles de passe, il trouve des remises. C'est un joueur, pour moi, hors norme. Dans mes 30 ans passés ou 40 ans passés dans le football, sincèrement, j'ai rarement vu des joueurs de ballon aussi, des attaquants aussi justes techniquement, aussi intéressants avec une palette aussi large.
Alors, la première saison à Lyon, c'est donc 2005-2006. Première sélection à 20 ans en 2007, donc, avec l'équipe de France. D'ailleurs, premier but également à cette époque-là, face à l'Autriche. Premier but de Benzema en sélection. Alors, l'histoire avec l'équipe de France, on va y revenir. Bien sûr, mais alors finalement, il va quand même très tôt au Real, même s'il a deux saisons pleines, disons, avec Lyon dans les jambes. L'une d'elles où notamment il va éblouir tout le monde face à Manchester United en huitième de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, on y reviendra aussi en chiffres, mais il a une relation d'amour avec la Ligue des Champions assez incroyable. Et donc Fred, il arrive en 2009 à Madrid. Et bon, on peut résumer son arrivée avec Florentino Pérez qui est complètement amoureux de lui.
Ah mais Florentino Pérez, parce que c'est pas lui qui gère les transferts, Florentino Pérez, c'est le directeur général du club. Florentino Pérez ne s'est déplacé qu'une seule fois pour aller chercher un joueur, c'est Karim Benzema. Il a pris son jet privé, il est allé à l'aéroport de Lyon, il est allé à Bron et il est allé voir Karim chez ses parents. parce qu'il avait, à l'époque, il y a Manchester United qui faisait un forcing de folie à l'époque avec Sir Alex Ferguson pour engager Karim. Et Florentino Pérez a toujours pensé qu'il était le mélange parfait entre Zidane et Ronaldo Nazario. Voilà, donc c'était une obsession chez Florentino Pérez. Et je pense que il est arrivé très tôt. Ça a été dur pour lui parce que, moi, je me souviens à l'époque, Karim pleurait seul le soir dans sa chambre d'hôtel. Parce que il avait 22 ans, c'est la première fois qu'il vivait à l'étranger, c'est la première fois qu'il habitait loin de sa famille, et qu'il était tout seul à Madrid, quoi. On a beau être riche, on a beau être très connu, ben, on a le droit d'avoir.
Fred.
De sortir de solitude, oui.
Avec toi à Madrid, comment il a pu rester seul dans sa chambre d'hôtel? C'est ça que je me pose comme question, moi. Franchement, c'est quoi cet accueil? Enfin, franchement, moi, j'ai jamais été tout seul dans ma chambre
Ronaldo,
d'hôtel.
Alors, c'est Ronaldo qui était son conseiller à l'époque. Et Ronaldo, au bout de quelques semaines, lui dit, et ça, c'est carrément, on avait rapidement parlé, lui dit, tu sais, tu travailles pas assez ici. Et au Real, il faut faire plus ce que te demande l'entraîneur. Et donc c'est Ronaldo qui l'a pris un peu sous son aile. On le sait pas assez ça, hein. Mais Ronaldo, Cristiano Ronaldo, l'a pris sous son aile, l'a beaucoup aidé et l'a incité à arriver plus tôt au centre d'entraînement, à repartir plus tard, à faire des séances supplémentaires de musculation, etc.
Alors,
mais
en fait,
ce qui a été très compliqué, je termine là-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu l'entraîneur idéal pour le recevoir, parce que Pellegrini, c'est quelqu'un qui avait pas trop de légitimité et qui était surtout intéressé par sa propre intégration avant de s'occuper d'un jeune gars qui arrivait comme Benzema.
Est-ce que Zizou a eu une influence quelconque dans sa venue à Madrid?
Aucune. Non, c'était un choix depuis très très longtemps de Florentino Pérez.
Alors, c'est vrai que Benzema découvre à ce moment-là ce que vous avez découvert aussi à un moment, c'est l'exigence d'un grand club, le fait d'être isolé. Manu, c'est une étape que tous les joueurs n'arrivent pas à franchir.
Nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau vestiaire avec une nouvelle mentalité, le fait d'arriver sur la pointe des pieds. En plus, c'est un jeune joueur, donc il n'a pas non plus un curriculum vitae derrière lui. Donc...
il arrive en même temps que Kaka et Cristiano Ronaldo.
En plus, ballon d'or Kaka, donc ouais. Tu te dis que tu fais partie un petit peu des homonymes, non, des anonymes, pardon. Donc quelque part, t'arrives vraiment, t'essayes de te faire ta place, mais sans déranger qui que ce soit. Donc t'essayes surtout de prendre des informations, d'analyser l'environnement et d'essayer de t'impliquer au maximum le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que le changement d'un pays à un autre, d'un point de vue culturel, ça chamboule tout. Et il y a beaucoup de joueurs qui prennent pas ça en considération, en fait.
Comment c'était Fredo? Excuse-moi, Jean-Louis. Comment c'était Fredo quand il est arrivé, par exemple? C'est parce que moi, ça m'intéresse toujours. Il y a eu le truc avec Michael Jordan, qu'on a tous plus ou moins regardé. Quand il arrive que ce soit à la fac ou dans ses premiers pas en NBA lorsqu'il est drafté, c'est quoi les premières impressions des 15 premiers jours et 3 premières semaines de ses partenaires? Est-ce que de suite, ils sont éblouis, ils sont effarés? Moi, ça me rappelle, par exemple, Zizou, quand il arrive de Cannes à Bordeaux, pas grand monde le connaît, il arrive dans un échange avec deux autres joueurs, Eric Guérit et Jean-François Daniel, et puis les copains du club, ils me disent mais il vaut quoi ce petit, ils ont entendu parler vaguement, et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils se disent celui-là il joue pas au foot comme nous. C'était quoi Benzema?
Excuse-moi, c'est pas Eric Guérit, c'est Ronaldo et Kaka, c'est pas Eric Guérit et Laurent Crossi. C'est beaucoup plus facile d'impressionner les mecs. Même Jordan, il est pas arrivé aux Lakers.
Il est très discret, même s'il y a quand même une présentation galactique dans le stade où il y a 40 000 personnes, moins que Cristiano et moins que Kaka, mais il y a quand même une présentation à Bernabéu importante. Hein. Je ne sais pas si vous souvenez des images, 40 000 personnes dans le stade, ce qui n'est pas rien. Mais il se fait tout petit, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'à l'époque...
Et à l'entraînement, ils ne sont pas impressionnés de suite, les mecs?
Non, pas tout de suite.
C'est quand même un vestiaire où il y a Ronaldo et Kaka qui arrivent. Ce que disait
Julien.
Des
fois, quand tu vois un jeune...
Il y a plein de nouveaux joueurs.
Moi, j'ai le souvenir qu'on disait beaucoup de bien de Benzema, mais qu'il y avait surtout la tension sur les deux autres. Et en plus, Kaka ne marche pas bien au Real. Donc, c'est ça aussi le sujet de conversation, plus que les difficultés de Benzema. Enfin, en tout cas, moi, c'est le souvenir que j'ai.
Bien sûr. Puis, j'insiste sur Pellegrini. Enfin, tu t'en souviendras, Jean-Louis. Pellegrini, il a pas vraiment beaucoup de personnalité. Tu sentais qu'on avait l'impression qu'il était là et qu'il dérangeait, quoi. Donc,
il n'a pas été aidé
quand même.
Moi, je trouve qu'il a aidé dans l'intégration de Benzema, c'est qu'au début, moi, je me souviens, il faisait énormément de passes à Raoul. Il s'était mis en tête, il faut absolument que je me mette Raoul dans la poche, donc je vais lui faire plein de passes, etc. Ouais. Et là, l'avantage qu'il a eu quand même, c'est que Raoul, il était sur la pente descendante, il a quitté le Real l'année d'après, et la force du Real, elle s'est tournée vraiment vers Ronaldo, avec qui il a développé cette connexion impressionnante, sur laquelle on va revenir sur les victoires du Real en Ligue des Champions, bien sûr, parce que Benzema y a participé, et puis l'équipe de France, bien sûr, on refait la carrière ensemble de Karim Benzema. Benzema, dans Team Dugas tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 19h33, Team Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Fred Hermel, avec Gilbert Bribois, avec Emmanuel Petit, avec Julien Cazard. Nous continuons à parler de la carrière de Karim Benzema.
Exactement, alors on est à peu près au début des années 2010, donc il est au Real. Et il enchaîne aussi des sélections en équipe de France. Gilbert, on t'a pas encore entendu sur le début de carrière de Benzema. En bleu, il impressionne quand même.
En bleu, il est impressionnant, mais moi, j'ai pas grand-chose à raconter sur Benzema le footballeur, parce que franchement, il y a rien à dire. C'est sans doute le meilleur numéro 9 français qu'on a eu depuis une éternité, actuellement le meilleur.
Mais pas toujours bien compris quand même. Hein. Toujours, on lui a reproché son réalisme, justement, son manque de réalisme.
C'est peut-être aussi un peu sa faute, parce que là, pour l'instant, on fait la géographie de Benzema à juste titre, sportivement, mais quand même, il y a tout ce qui se passe à côté.
Il y a les affaires.
Ah oui.
Effectivement.
C'est pas un excellent communicant.
Il y a l'histoire de la sextape. Il y a l'histoire ici même, il y a l'affaire Zaya. Il y a l'histoire ici même, il y a quelques années, quand il dit à Luis Fernandez, moi, mon pays, c'est l'Algérie. Enfin, il y a tout ça quand même. Et ça, malheureusement, ça compte aussi dans la carrière de Benzema.
Oui, bah bien sûr.
Ça lui a fait beaucoup plus de mal que.
En fait,
que de
bien. Sur le terrain, tout va bien. Toujours. Parce que...
Non, pas toujours.
Mais quasiment toujours.
Attends, tu te rappelles pas les polémiques. Il a fait 11 matchs sans marquer en bleu.
Ça peut arriver, Jean-Louis.
Parce qu'il faut rajouter un truc, c'est que c'est
à l'époque,
c'est un des mecs les plus fair-play qui soit. Il a jamais pris de carton rouge dans sa vie.
Oui. Il est adoré dans les vestiaires.
Il n'y a jamais eu un coéquipier, effectivement, comme dit Fred, qui va te dire. Sur les trucs football, en fait, le mec, il est irréprochable.
Je suis pas d'accord avec toi.
Mais Gilbert. Alors vas-y, Manu, Gilbert, pourquoi t'es pas d'accord?
Tu sais très bien que. Vas-y, Manu.
Vas-y, je t'en prie.
Non, je disais, mais tu sais très bien que s'il avait marqué un but qui qualifie la France en quart ou en demi-finale d'une Coupe du Monde, on aurait passé des trucs. C'est comme ça qu'on marche en France.
C'est ce que tu voulais dire, Manu, c'est ça?
Bah oui, parce que quand tu me dis, Gilbert, il n'y a rien à dire sur l'aspect sportif, je suis désolé. Tout est bien au Real Madrid. Même si tout n'a pas été un chemin clairsemé, quoi, tu vois. Mais l'équipe de France, ça reste quand même une tache noire dans son parcours. Donc, d'un point de vue sportif,
l'équipe
non.
de France, il ne va plus en équipe de France parce que c'est un choix du sélectionneur hors football. Sinon, il serait.
Il a 88
buts. Je suis pas certain que tu aies raison. Encore une fois,
27 buts.
Tu penses que Deschamps pense qu'il est pas bon?
C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que l'équipe de France, il faut être décisif.
Pour être décisif, il faut jouer les matchs.
Il est aussi tombé dans une très mauvaise période en équipe de France.
Je me rappelle, pendant un an, il ne marquait plus.
Voilà, c'est des fameux.
Il n'a pas été dans la meilleure génération possible avec l'équipe de France aussi.
Mais même, rappelez-vous, un fait marquant avec l'équipe de France.
Mais sportivement, il n'y a rien qui justifie.
À part l'Ukraine 2012.
Sportivement, il n'y a rien qui justifie que je parle d'équipe de France.
Dans les phases finales, je suis désolé.
Dugas vient de dire un truc important.
Le fait qu'il soit performant avec le Real Madrid, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien à dire sur le Real Madrid. Il a envoyé balader toute la concurrence en permanence. Il a fait effrayer son chemin. Et pour rester aussi longtemps dans un club aussi incroyable, il faut avoir une énorme qualité. Et il l'a. On est tous d'accord pour dire ça. Mais sur l'équipe de France, je suis désolé. Pour moi, c'est un raté. Sur la plupart de sa carrière.
Oui, mais de quoi on se rend compte quand on regarde sa carrière, effectivement, et l'équipe de France, c'est qu'il a besoin d'être entouré. C'est qu'il a besoin de monde autour de lui. Il avait besoin de Ronaldo au Real.
Et en équipe de France,
il n'a pas trouvé ce joueur de complément.
Autant à Madrid, il est bien entouré et il est au service, justement, de certaines grandes stars. Autant en équipe de France, il a le costume de la star. C'est lui qui doit être le leader à ce niveau-là. Et rappelle-toi, tu l'as dit tout à l'heure, quand il est arrivé dans le vestiaire, il était jeune, il dit, moi, je suis la personne qui va vous piquer votre place. J'aurais aimé qu'il fasse preuve d'autant de personnalité.
Tu le juges sur des qualités qu'il n'a pas, Manu. C'est un grand joueur, mais qui n'est pas forcément ce leader-là qui va être capable de faire jouer les autres. Tu le reproches de ne pas être un certain type de footballeur.
Non, pas du tout, Duc. Tu te trompes. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir cette ambiguïté et ce paradoxe incroyable entre ses performances avec Madrid et ses performances en équipe de bleu.
Il n'est pas entouré par
Paris. Mais attends, il a joué combien d'années en équipe de France? Il a quand même des joueurs de talent autour de lui en équipe de France. Excuse-moi, on peut pas mettre tous les joueurs de l'équipe de France pendant les deux ou trois générations à laquelle il a côtoyé.
Alors,
c'est
pas bon, tu imagines aujourd'hui avec Griezmann et Mbappé,
t'imagines cette attaque 2014, c'est pas dingue quand même. Hein.
T'imagines l'attaque de l'équipe de France aujourd'hui s'il y avait Benzema,
c'est Mbappé, ce qu'on aurait tous voulu voir, ouais.
Donc, parce qu'il faut.
T'imagines, c'est peut-être champion du monde.
Il a mûri quand même.
Si vous pensez que j'ai tort en disant que son rendement d'équipe de France est largement insuffisant et que vous pouvez me sortir des arguments comme quoi il était mal entouré,
on est d'accord.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Non, on dit juste qu'il y a un joueur qui a besoin de partenaires plus que d'autres, quoi.
Moi, je pense que le problème, il se situe pas sur le terrain et que l'ambiguïté qui en découlait au niveau de la communication, ce que t'as souligné, pour moi, il est là le vrai problème.
Et donc, ça n'enlève rien à la qualité de Benzema.
Une nouvelle fois, sportivement, rien ne justifie qu'il n'y soit pas.
Le maillot de l'équipe de France n'a jamais été vraiment à sa pointure. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux sens.
Attends, mais ce que tu veux dire par rapport aux affaires, c'est qu'il n'avait pas envie de jouer avec l'équipe de France?
Non, je pense qu'il l'avait, mais à un moment donné, il y a un désamour qui s'est créé, qui a été amplifié par une mauvaise communication, par des médias aussi qui ont mis de l'huile sur le feu, par la sortie virulente de certaines personnes également, qui n'ont jamais souhaité mettre un terme à ces polémiques. Et puis, lui, connaissant la fierté et l'orgueil, la personnalité de Karim Benzema, je pense que lui, il a dû se dire, un peu comme Nico, comme Kanto à l'époque de l'équipe de France, je veux dire, moi, allez tous vous faire, voilà, tu vois ce que je veux dire.
Donc, Jean-Louis, oui, pardon, il y a aussi un truc, c'est que on n'en parle pas trop, mais c'est aussi le fait de savoir. Il y a des fois où il faut savoir aussi se séparer de certains amis, des vieux amis, des potes d'une certaine époque. Ouais. Ou, par exemple, moi tous mes potes qui payaient pas l'ISF, à un moment donné, j'ai décidé de plus les voir. Faut faire des choix. Parce qu'à un moment donné, ça devient des boulets.
C'est pour ça que tu ne réponds plus?
Par exemple,
déjà, sur la communication de Benzema, moi qui connais quand même très bien, c'est-à-dire que. Dans toutes ces affaires, de tout ce qu'on voit dans sa mauvaise communication, et quand on le connaît, c'est pas la même personne.
On est d'accord, c'est comme Nico, c'est pareil.
Mais Nico, je l'ai connu, moi, à Anelka, à l'époque où ça allait mal avec le Real, où il a été mis en dehors de l'équipe pendant un mois, etc. Enfin, ce sont des bons mecs. Sincèrement, enfin, Anelka, c'est un bon mec, Benzema, c'est un bon mec. Après, dans la com, ils se sont plantés d'une manière terrible. Mais moi, si je fais confiance, Florentino Pérez, par exemple, prenons le type, il est PDG d'une des plus grosses boîtes de construction de travaux publics au monde, il est président du plus grand club de l'histoire du foot, il adore Benzema. Ancelotti, qui est avec un mec bien, il adore Benzema. Zidane adore Benzema. Tous les entraîneurs, finalement,
Deschamps n'adore pas Benzema.
Non, si, il a adoré.
Il a protégé. Il a adoré.
Mais attends, Fred,
il a eu une interview catastrophique dans Marca.
Non, mais il l'a adoré, mais il savait aussi qu'il pouvait gagner sans lui. Sinon, Deschamps l'aurait pris. Si dans sa tête, pour gagner, il fallait Benzema, il se serait débrouillé, il l'aurait pris.
Peut-être.
Oui, il savait qu'on pouvait gagner sans.
Fred, est-ce que tu crois que si Benzema,
il avait 4 ans, ça.
Et encore, je suis même pas sûr que c'est bon. Et tu sais, si Florentino Pérez, Benzema avait liké dès qu'un mec dit du mal de Florentino Pérez sur Internet, sur Twitter, s'il avait liké à chaque fois,
ça c'est sur Giroud.
Je te parlais sur Didier Deschamps.
Sur Deschamps et sur Giroud aussi, il a liké des trucs
anti Giroud, on s'en fout. Deschamps, c'est ton sélectionneur. Like pas les mecs qui se foutent de la gueule de Deschamps.
C'est stratégique. L'erreur suprême, c'est une interview dans Marca juste avant l'Euro.
La partie raciste de la France.
Voilà. Et ça, c'est la une. Et moi, je me souviens, j'étais dans un programme de télé à l'époque en Espagne. Je vois ça, on me dit, alors tu vas défendre Benzema. Je dis, mais comment veux-tu que je défende Benzema là-dessus? C'est une erreur monumentale. Monumentale. Parce qu'il serait champion du monde aujourd'hui.
Et parce ça, qu'il se fait chauffer sur Twitter par des mecs qui le soutiennent de la mauvaise manière.
Exactement.
Fred, est-ce que tu penses que son agent historique a eu une bonne ou une mauvaise influence au final sur lui?
Écoute, je vais pas juger. Moi, je vais juger ce que m'a dit Florentino Pérez. Florentino Pérez aime beaucoup Jaziri. Florentino Pérez m'a dit, parce qu'à un moment, Karim, quand Mourinho le traitait de chat, etc., à un moment, il a voulu partir. Et son père et son agent lui ont dit, ton rêve, c'était de jouer au Real. Eh ben, bats-toi et sois là. Et moi, Florentino Pérez m'a dit un jour en privé, si Karim Benzema est encore aujourd'hui au Real Madrid, c'est grâce à son père et à son agent.
Oui, en fait, la com et le sportif c'est pas la même chose.
Donc, peut-être que son agent a très bien géré le sportif, mais pas forcément bien géré la com.
Voilà, je pense que c'est le bon résumé.
Enfin, bon, c'est possible. Mais le Marca, c'est l'erreur, c'est la plus grosse erreur. Il n'est pas en équipe de France à cause de ça. Il n'a pas fait le mondial à cause de ça. Et puis aussi par le fait que Didier Deschamps, quand même, il annonce à Karim Benzema qu'il ne joue pas l'Euro par téléphone. C'est pas loin Madrid. Hein.
Sans aller le voir, ouais.
Ouais, c'est-à-dire que je sais, au sein du vestiaire du Real Madrid.
Déjà qu'il l'a appelé, c'est bien.
Des gens ont dit au sein du vestiaire que c'était incroyable qu'on puisse se priver d'un tel joueur sans au moins venir le voir 5 minutes et lui dire. Face à face. Et ça, je pense que Karim, il a beaucoup souffert de pas pouvoir jouer l'Euro dans son pays.
Qu'est-ce que tu penses du gars?
C'est mon combat que j'ai mal expliqué, certainement, en m'énervant, mais c'est mon combat. C'est ce que moi aussi j'aurais adoré. Et voilà, et c'est comme ça que tu règles les problèmes entre quatre yeux et entre hommes, pas à travers des crises de colite. Non, mais voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Ouais.
Allez, Nassim nous rejoint au 32-16. Salut Nassim.
Salut poulet, bienvenue.
Salut Nassim.
Alors, merci.
qu'est-ce que tu retiens de la carrière de Benzema, toi? Le passage au Real, la fin d'histoire compliquée avec l'équipe de France.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur plein de choses qui ont été dites. Je pense qu'il y a eu un problème de gestion des relations de Karim, je pense, parce que je suis de Lyon, Karim, on l'a déjà vu passer, voilà, c'est un quartier difficile. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu atteins un certain niveau d'exigence footballistique, il faut que tu te dégages de certaines personnes qui veulent être nuisibles.
Ouais, mais t'as le droit d'être fidèle à tes amis d'enfance.
Oui,
je te promets.
Mais je suis d'accord avec toi, mais il faut.
Tu peux les tirer vers le haut plutôt qu'ils t'amènent vers le bas.
Ils comprennent, ouais, mais il faut que les amis d'enfance aussi comprennent que l'image c'est important et qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Pour moi, c'est mon avis. Après, irréfutablement, c'est un des plus grands joueurs français vu ce qu'il a fait en Champions League et juste vu ce qu'il a fait au Real Madrid. C'est un, nous, ce qu'il faisait à Lyon, il nous a fait rêver. Il a fait des trucs, mais il y avait un match contre Lorient, je crois, où il part sur le côté gauche, où il fait une talonnade petit pont, il se retourne et il part but. Il nous a fait vivre des moments qui sont inoubliables. Et par contre, en équipe de France, je pense que au-delà de la communication, il n'est pas tombé aussi au bon moment. Je pense équipe de France 2012, ils se font éliminer par l'Allemagne, c'est pas n'importe qui.
2014. Oui.
2014, pardon. Oui, ils sont éliminés par l'Allemagne, mais Grisou est encore à la Sociedad, Pogba est pas le joueur. Enfin, je pense que s'il avait une équipe, enfin, il n'était pas si leader pour qu'on joue pour lui, mais si l'équipe avait joué pour lui, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus performant. On a parlé de Grisou avant. Grisou, la dernière Coupe du Monde, les gars, il met 4 buts dont 2 pénaltys. Hein. C'est pas non plus... mais ça n'empêche que...
Ouais, mais il te qualifie contre l'Uruguay sur un but, tu vois. Mais il a pas fait Benzema.
Ils se ressemblent un peu, Grisou et Benzema, dans la façon de jouer. Hein.
Ah oui,
ils ont... Ah, je trouve qu'ils ont une qualité à pouvoir jouer à droite, à gauche, milieu de terrain, faire jouer les autres, être des finisseurs. Je trouve qu'ils se ressemblent, moi.
Comprendre ce que demande le jeu.
Ouais, exactement, aussi.
Oui,
aussi.
Se mettre au service du jeu, c'est ce que dit Benzema, ouais.
Merci
d'être venu au 32-16. Oui, Fred?
Quand il se décrit lui-même, il dit, je suis un numéro 9 avec une âme de numéro 10. C'est beau, quand même.
Oui, d'ailleurs, quand on voit le match de ce week-end.
Ce Fredo, il a prévu de chialer comme ça.
Le match de ce week-end contre Eibar, où il est impliqué sur tous les buts, il a clairement des gestes de numéro 10. Là, à distribuer le jeu comme ça.
Ah oui, non, mais c'est vrai que c'était un délice de le voir jouer hier soir. Il va avoir 33 ans en décembre, mais il est dans une forme physique étincelante et l'entente avec Hazard, elle est superbe. Franchement, si Hazard physiquement ça tient le coup, je pense qu'on va voir des choses extraordinaires au Real entre les deux.
Il y aurait eu plein de choses encore à dire sur la carrière de Benzema, mais on doit s'arrêter, bien sûr. Vous pouvez continuer le débat sur Twitter et on revient dans un instant avec le blind test. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Dugas continue pour encore une belle dizaine de minutes. Mon Jean-Louis, c'est le moment du blind test.
On y va. Équipe champion du monde 98, Christophe Dugarry, Emmanuel Petit. Équipe qui se
bouge. On est nul.
Ouais, mais bon, vous allez peut-être avoir un bon auditeur.
Optimiste.
Et puis en face, l'équipe des couche-tards, Bribois, Cazard, Hermel. C'est lié au fait qu'il fasse la
équipe invaincue. Hein.
Oui.
Ah
oui.
Ah bah moi, Julien, je suis invaincu.
Ouais, c'est vrai.
J'espère que je vais pas vous porter la poisse.
Les années passées au bar, c'est normal.
Avec vous, Karim, qui est là au 32-16. Salut, Karim.
Salut tout le monde.
Salut.
Tu veux faire équipe avec Duga et Manu ou avec les autres?
Allez, je vais avec eux, y a pas de problème.
Très bien.
Bonne chance, Karim.
Opportuniste.
Et Monde est là, salut Monde.
Salut.
Alors toi, salut, tu es avec les couche-tards.
Avec les meilleurs.
Bon, si tu
veux. Merci pour eux.
Ou les moins mauvais, c'est
Cazard, Bribois, Hermel. On y va, première chanson, on cherche l'interprète. Et puis derrière, question foot.
ACDC.
Non, Fiscalisé au Chérigo.
Non.
Genesis.
Ah oui, Genesis, Julien.
Ah oui.
Quel
ouais.
Bien joué, Julien.
1-0. Ah
bah, c'est le mec qui fait l'entrée des joueurs au Parc des Princes depuis 25 ans. Donc,
ah, voilà pourquoi.
Ah, bah oui.
Alors,
c'est pour ça que je connaissais pas.
Le titre I Can Dance, sorti en 91. Qui termine meilleur buteur de D1 en 91?
Papin.
Effectivement.
Bien joué, Julien.
Ça va vite. Djibril Cissé en 91, du gars.
Je sais pas.
Il était jeune.
Je
sais pas. Très jeune.
Djibril Cissé, on sait pas quel âge il a. Il va encore jouer au foot. Donc,
c'est vrai. T'as raison. L'important, c'est d'essayer.
Voilà.
On y va.
Ah,
Kill Bill.
Non. Manu.
Shibari.
Sinatra.
Voilà.
Ah oui.
J'adore ça.
Bang, bang.
Manu, il me fixe. Sans rien dire.
C'est quand t'as le truc, là, tiens.
Il a quel âge l'auditeur qui a trouvé Nancy Sinatra? Parce que c'est quand même pas jeune.
62.
38, Karim.
Ah bah dis donc.
Oui.
Alors. Kill Bill, c'était bon aussi, Jean-Louis.
Bien, oui, ça aurait pu passer, bien sûr.
Bah, je l'ai dit.
Oui, mais c'est pas ça, on cherche.
Mais c'est pas une chanteuse, Kill Bill. Oui, voilà. Kill Bill, c'est pas une chanteuse.
Et oh, alors, ça suffit. Hein.
La question foot sur Nancy Sinatra. Question sur Nancy, sur la SNL, bien sûr.
Platini.
Alessandra Tana.
Une victoire en Coupe de la Ligue en quelle année pour Nancy?
2002, 2001.
Non. 2005
contre Nice.
Non.
2006 contre Nice.
Oui, 2006, Gilbert.
Ouais, c'est ensemble ou quoi?
Comment?
T'as connaissance, ça, c'est la culture générale, mon vieux.
Je me rappelle de Nice-Nancy, très belle finale. Hein.
Avec oui. Kim.
Non, je l'ai pas vu.
Exactement. Alors, nouvelle chanson. Kim, là, là, je vous demande le titre. D'accord?
You Never Walk Alone.
Eh oui, Gilbert, You Never Walk Alone.
Tu joues en Angleterre, toi, Manu?
Non, j'ai joué au Celtic.
Alors, je sais qu'à Madrid, c'est You Never Sleep Alone. C'est ce que m'a dit Fred.
Vous êtes un peu mou, effectivement.
Oh, You Never Fuck Alone.
On la chante dans le stade avant, après les matchs.
Oui, après les matchs.
Fred m'avait dit qu'il voulait participer au blind test. C'est
bah ouais, mais c'est des trucs trop bonheur.
C'est une réussite.
Ouais.
Encore une belle variante.
Il faut les 30 et tout ça, tu vois. Il faut des...
Alors, est-ce que vous pouvez me donner un club autre que...
Celtic.
Le Celtic et que Liverpool.
Bon, Richard Boone.
Oui, Dortmund, Gilbert.
Exactement. Et qui a été le premier?
Manu. Bravo, Manu.
Non, non mais je veux dire, c'est le premier club.
Non, c'est vas-y, Celtic. Non.
Je sais pas.
Ah, c'est pas. D'accord, très bien. Merci.
Tu sais, il n'a pas la réponse.
Tu sais quoi, je trouve que c'est insupportable que ce soit dans tous les clubs en prennent ça.
Pourquoi?
Bah, créer votre propre identité. Qu'est-ce que c'est que ça de copier?
Ouais, sauf si c'est Strasbourg. Si c'est Strasbourg qui le fait, ça te pose pas de problème.
Non, pas du tout. Moi, j'irai voir le mec de la Sono et j'irai lui débrancher.
Et il t'écouterait.
Les corons, c'est calant ça.
Exactement.
Allez, je te rassure, personne vous le piquera celui-là.
5-1, c'est un peu gênant, mais on y va. Allez, nouvelle chanson.
Cœur de pirate.
Oui, c'est ça.
Oui. Là, c'est presque limite gênant. C'est limite gênant. Hein.
Pourquoi?
Je sais pas. Je sais pas.
Fort,
je sais pas quoi dire.
C'est gênant, je joue aussi fort. Je peux comprendre.
Ça va aller vite. Ouais. Qui a dit ce soir c'était 11 hommes contre 11 enfants?
Evra,
ouais. Gilbert.
On est là, Gilbert. On est là, Gilbert.
La chanson c'était comme des enfants.
C'est quoi le rapport avec Evra?
De quoi?
C'est quoi le rapport avec la chanson?
Bah, la chanson s'appelle Comme des enfants, je viens de vous le dire. Si, donc vous m'écoutez et vous arrêtez de vous plaindre.
Le rapport avec Pirates, c'est qu'il
est infernal.
Le rapport avec Pirates, c'est que c'est un capitaine qui a fait une mutinerie.
Aussi, en plus. En plus, voilà.
Je n'ai pas compris les règles, moi.
Bah, il y a une chanson, on cherche.
C'est tous les 28 jours.
Et puis après,
on peut jouer, là.
On y va, nouvelle chanson.
Avicii.
Oui, le gars, bien joué.
Ce qui est bon en musique, celui-là.
Dès que c'est pas du foot, il est là,
6-3.
Il est en place. Respect,
quoi. Avicii. Tube sorti en 2013. Qui est élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2013?
Mbappé.
Non. Non.
Martin. Marvin Martin.
Non. 2013.
Ben Affa.
C'est un joueur de
Sako,
l'OM.
Sako, Hazard.
Un joueur de Marseille. Oui, Fekir de l'OM, bien sûr.
Nasri.
De Marseille. Thauvin.
Nasri.
Gilbert. Oh.
T'es jamais sorti un paquet, pour
c'était bien tenté.
Il est
où,
Manu?
Il est là, il est là.
Non mais Nasri espoir en 2013 évidemment.
Et tu sais quoi, oui. Demande plutôt qui était victoire de la musique à cette époque-là, ouais. Parce que sinon Dugas peut pas jouer. Hein.
Allez, dernière chanson, on y va.
Joe Dassin.
Non.
Delpech.
Oui, Delpech. Bon, on est Fred, bravo. Ouf. Mais c'est bon, qui l'a donné avant. Et la question qui va avec. Bon, on cherche juste un chasseur de but anglais passé par Southampton, Blackburn ou encore Newcastle.
Schirrer,
exactement. C'est Karim qui l'a donné.
Quoi?
8-4
Karim.
Non, c'était pas Karim. Delpech, ça me fait penser à la blague. Est-ce que tu sais qu'il fait des tests des poissons?
La pêche. Excellent, Manu. J'aurais bien aimé. On va terminer.
Excusez-moi. On peut réécouter la blague de Manu, s'il vous plaît.
Non, quand même.
Ah ouais, s'il te plaît.
Merci tout le monde. On en retrouve certains dans l'after ce soir.
On est encore invaincu.
Julien, j'imagine. Merci Manu Petit. Duga, à demain, 18h. Et on envoie à Mourand un t-shirt RMC, bien sûr. Nouveau blind test demain, dans un instant, c'est par ici la sortie sur RMC. Ciao à tous.
RMC, 18h-20h. Team Duga.